Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. C'est parti pour une heure de débat avec nos invités. Nous sommes avec Maître Gilles-William Goldnadel. Bonsoir à vous, bienvenue. Agnès Evren est là, vice-présidente des Républicains. Bonsoir à vous. Bonsoir. David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir et bienvenue. On va évoquer la question du pouvoir d'achat. C'est l'un des premiers textes que le futur gouvernement d'Elisabeth Borne va présenter au Parlement. Et on sait que c'est la première préoccupation des Français. Avant ça, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce que les trois grands fournisseurs d'énergie de notre pays, à savoir Total, Énergie, Engie et EDF, nous ont demandé hier. Ils nous engagent à réduire notre consommation immédiatement. Immédiatement, sans quoi, eh bien, nous aurons de vrais soucis d'approvisionnement cet hiver concernant le gaz. Est-ce que cette forme d'ultimatum, Agnès Evren, vous surprend de la part de ces trois grands acteurs de l'énergie française qui nous disent à la fois consommer, payer très très cher votre carburant, votre gaz, mais en même temps consommer moins?
Honnêtement, ça me surprend d'autant plus qu'on est dans une situation paradoxale où l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait. L'État n'a pas suffisamment investi dans le parc nucléaire depuis 5 ans et on demande encore une fois des efforts aux Français. Alors bien sûr, il faut aller vers plus de sobriété, mais il aurait fallu que l'État prenne un peu ses responsabilités. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faut désormais prendre le taureau par les cornes et aller véritablement vers plus de rénovation thermique. Je crois qu'on a 11 millions de passoires énergétiques en France. Donc, la rénovation du bâti, évidemment, et aller vers plus de chauffage, biomasse, biogaz. Mais encore une fois, la communication du gouvernement se substitue à chaque fois à l'action. Et donc aujourd'hui, voilà, on montre du doigt les Français, on leur dit c'est à vous d'aller vers un comportement de plus en plus sobre.
Mais il y a quelques jours, le gouvernement nous disait mais il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. C'est ça qui est très surprenant, David Guiraud.
Parce que la communication se substitue à l'action, comme d'habitude. Mais
on nous disait une semaine, tout va bien, et là on nous dit attention, si vous freinez pas, si vous levez pas le pied, c'est la catastrophe.
Non, mais c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Déjà, les Français, ils font déjà des efforts. En fait, il y a déjà des... Vous regardez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, il y a des centaines de milliers de Français dans ce pays qui ont froid. Dans
qui ne se chauffent pas l'hiver, absolument.
Et voilà, et comment on fait? Je veux dire, quand on a des enfants qui ont froid, qui doivent être en manteau dans le logement, parce que ça existe, hein. Moi, à Roubaix, on a là des situations où les logements sont des passoires thermiques, et ils en font des efforts, hein. Mais n'empêche que là, en ce moment, j'ai par exemple quelque chose qui remonte sur tout un quartier à Roubaix, à l'Épeule, qui est très mal isolé, où en fait, les factures d'électricité sont en train d'être régularisées, donc c'est dans le quartier de l'Épeule, où vous avez des factures, on les a vues, hein, les factures des gens, c'est plus 300, plus 400, il y en a même qui ont des factures à plus 1000 euros. Imaginez quand vous êtes au SMIC, quand vous bossez au RSA, quand vous dépendez de l'aide sociale, une facture à 300 ou 400 euros sur l'année, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc en fait, les Français font déjà des efforts. Par contre, le PDG de Total qui se met plus 52% d'augmentation sur son salaire, qui a plusieurs millions d'euros de salaire, l'entreprise Total elle-même qui fait quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière, mais c'est à elle de partager, en fait. Parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de carburant qu'avant. La guerre a déstabiliser un petit peu, je veux bien l'entendre, mais les augmentations de prix, c'est de la spéculation. C'est les normes européennes qui calquent le prix du pétrole avec le prix du gaz, etc. C'est pas une crise de la production, c'est pas vrai. Donc on doit faire ce qu'on demande depuis longtemps à la France Insoumise, le blocage des prix et le blocage des loyers. J'espère qu'on va parler tout à l'heure des loyers, parce que ça devient... franchement, ça devient scandaleux.
C'est un des postes de dépenses absolument hallucinants pour les Français.
Et puis là, on nous annonce une augmentation de 3,5%. 3,5% de l'augmentation. Non, non, 3,5%.
Et le blocage des loyers.
Mais voilà, alors c'est génial parce que Bruno Le Maire en parle tout à l'heure. Voilà, alors il nous dit 3,5% d'augmentation des APL pour compenser soi-disant 3,5% des loyers. Il faut que les gens comprennent. Le versement moyen des APL, je l'ai sous les yeux, c'est 220 euros. Tandis que le montant moyen d'un loyer, c'est 730 euros. Donc en fait, vous allez gagner 8 euros avec la hausse des APL, si vous les touchez, parce qu'il y a des millions de Français qui ne les touchent pas. Mais vous allez payer 25 euros en plus. Ça fait quoi? Ça fait 17 euros par mois. Ça fait plus de 200 euros à l'année. Donc vous mettez les 200 euros à l'année, puis vous allez par exemple dans un quartier comme l'Épeule sur 200-300 euros, et en fait, vous ne pouvez plus vivre, hein, tout simplement.
On a passé directement au pouvoir d'achat. Juste un petit mot sur l'énergie, Maître Goldnadel. Vous comprenez comment on peut un jour nous dire tout va très bien, l'hiver est assuré, et puis tout d'un coup, on nous dit non, attention, si vous freinez pas, ça ne va pas.
Ça fait bien longtemps que je ne crois plus un mot de la communication gouvernementale. Donc c'est clair, et encore moins de la part d'un gouvernement qui s'est rappelé il y a seulement 6 mois que le nucléaire, c'était très important, c'était le fleuron de notre industrie. Donc bon, mais cela étant, ceci posé fermement, ça n'est pas parce que Total nous explique qu'il faut faire des économies d'énergie que ça n'est pas sain de faire des économies d'énergie. C'est pas non plus. C'est pas
le contraire.
J'ai connu des injonctions moins graves que celles-là. Faut pas exagérer non plus. Donc il y a une grande part de responsabilité du gouvernement, mais aussi il faut reconnaître que la guerre en Ukraine n'arrange rien à nos affaires.
Alors on vous a posé la question à vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour réduire votre consommation d'électricité cet été, hein, je pense notamment à la climatisation dans les locaux pour les personnes âgées. Écoutez vos réponses recueillies par nos journalistes.
Je suis pour l'économie. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit privé de tout. Mais faire un petit peu attention, je trouve que c'est pas mal.
Je pense qu'il faut faire des... Depuis la COP21 à Paris, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Je pense que le gouvernement pourrait être encore beaucoup plus impliqué dans les économies d'énergie que lui peut réaliser déjà dans la commande publique, dans toutes les infrastructures.
Je trouve normal qu'on fasse tous des efforts. Je trouve que c'est... On a un peu tendance à un peu gaspiller beaucoup. Moi, je trouve que... Enfin, notre génération, on a appris à économiser et puis à pas faire couler l'eau, tout ça. Moi, je trouve que je le fais depuis toujours.
Agnès Evren,
il faut que chacun prenne ses responsabilités. Encore une fois, ça n'est pas normal que ce gouvernement n'ait pas investi dans le parc nucléaire, alors qu'on a des centrales aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Et la loi sur le pouvoir d'achat, là, évidemment, elle arrive parce qu'il y a eu une élection législative, mais encore une fois, elle ne répond pas aux attentes. Il y a une étude de l'INSEE qui donne un chiffre qui est extrêmement éloquent. Il explique que pour vivre convenablement, les Français auraient besoin en plus de 500 euros par mois pour se chauffer, pour se loger, pour se déplacer. Est-ce que cette façon de demander de changer de comportement pour aller vers plus de sobriété aux Français va suffire? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut enfin, pour le pouvoir d'achat, sortir de cette logique à chaque fois court-termiste où on est là à essayer concrètement de dire on va donner des chèques à gogo qui, de toute façon, alimentent l'inflation, qui continue en fait de faire exploser la dette et le déficit, alors que le vrai sujet, c'est d'aider les classes moyennes. Le vrai cœur du sujet, il est d'aider les classes moyennes en revalorisant le travail. De quelle façon ? En baissant la CSG. Parce que nous, si on baisse la CSG, alors on réussit à impacter en fait le salaire des indépendants, des retraités et des classes moyennes. Et c'est malheureusement, dans ce quinquennat, ces classes moyennes qui ont été complètement oubliées, voire méprisées.
Vous ne partagez pas cette analyse, j'imagine, David Guiraud ?
Mais moi, je pense qu'il faut aider tout le monde, parce que là, en fait, la situation...
Avec la baisse de la CSG, pour le coup, ça concerne...
Mais c'est ça, votre problème, c'est que vous proposer d'aider les gens en prenant une partie de leur
Les
de leur,
classes moyennes, c'est salaire, pas les gens, c'est ceux qui en ont besoin. Parce que c'est très bien d'aider les retraités.
Moi j'aimerais bien savoir, parce que du coup après c'est la retraite qui est impactée, ou alors du coup c'est les finances de l'État. Moi il y en a qui sont toujours au chaud dans cette logique, c'est ça que j'aime pas. Et ceux qui sont au chaud, c'est ceux par exemple qui, comme le groupe Total, a distribué 8 milliards d'euros.
Non mais ne revenez pas à chaque fois sur les mêmes...
Parce que pendant la crise, moi je veux bien, à la limite, si vous voulez... Allez, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord.
Non, mais essayons d'être réalistes dans notre discussion. Parce qu'on sait très bien que Total ne changera pas.
Mais comment ça, Total ne changera pas ?
Allez-y, alors dites-moi comment, concrètement ?
Eh bien, attendez, mais on les prend, on les met autour de la table. Et puis l'État français a quand même son mot à dire dans le groupe Total, je vous rappelle. Ouais. Parce qu'on est quand même actionnaire là-dedans, d'accord ? Donc, ce n'est pas comme si on n'avait aucune manière... Enfin, moi, je ne suis pas pour démissionner de nos responsabilités.
Quand il y a en pleine crise... Moi non plus, mais j'essaie d'avoir des propositions qui soient réalistes et faisables et mesurables.
Je vous donne une proposition. En pleine crise, quand les Français serraient tous la ceinture, je ne vous dis même pas d'adopter notre programme sur toute la vie, c'est pas grave. Mais 8 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires l'année dernière, on aurait pu décider en pleine crise que c'est pas 8 milliards d'euros qui vont aux dividendes, mais par exemple dans l'argent des Français. Quand on parle de blocage des prix, c'est une réponse concrète. L'Espagne et le Portugal le font. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a des pays en Europe qui pratiquent le blocage des prix. Pourquoi la France ne le pratique pas ? Pourquoi on devrait être les bons élèves comme ça à chaque fois ? Pourquoi on devrait se faire plumer à chaque fois ? Et ça, c'est...
Ça, sur l'énergie. Non, mais d'accord, sur l'énergie, mais sur le reste. Nous, on propose également, par exemple, la conversion des RTT en salaire. Ça vous parle ou pas, concrètement ?
Mais
c'est du salaire net.
J'essaie d'être efficace. Notre salaire brut... Je ne suis pas pour ça. Le salaire brut, c'est le seul patrimoine des pauvres souvent. Parce que c'est les services publics, parce que c'est la cotisation sociale, parce que quand vous avez un accident de la vie et que vous devez avoir recours au privé, et ben quand vous êtes pauvre, vous ne le pouvez pas.
Oui, mais on fait aussi avec notre situation, quand on touche un salaire entre ce qui part en TVA, en CSG et en taxes, il ne reste plus rien.
Et ben je suis pour l'augmentation du SMIC à 1 500 euros net.
Allez, on fait une petite pause, on continue à parler de ça, pouvoir d'achat, de salaire, dans un instant dans Punchline avec nos invités. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs David Guiraud de la France Insoumise, député du Nord, Agnès Evren, porte-parole des Républicains, Maître Gilles-William Golnadel, avocat, toujours là. On va parler de pouvoir d'achat, on parlait de l'énergie, évidemment c'est totalement lié. On en sait un tout petit peu plus sur ce qu'il y a dans la loi pouvoir d'achat qui sera présentée début juillet, normalement, au Parlement, par le gouvernement. On va juste faire le point avec Adrien Spiteri, puis on va voir si les solutions que vous proposez sont les mêmes ou pas.
Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisées de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de l'opposition, à l'image de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.
Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous agirons dans ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui iront dans ce sens-là. Mais je le préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser.
Le coût de ces mesures s'élèverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
Agnès Evren des Républicains, le compte y est là, dans ce que toutes les mesures annoncées ?
Non, pas tout à fait. Bon, déjà, il faudrait qu'on réponde à la question de comment est-ce qu'on paye les 8 milliards. Mmh. Alors, c'est très bien pour les précaires et pour les retraités. Nous, on demandait de toute façon l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc, mieux vaut tard que jamais. La seule chose, encore une fois, c'est qu'on a le sentiment qu'on est encore une fois dans des logiques, finalement, qui oublient complètement les classes moyennes. Et je le redis, OK pour les précaires, OK pour les retraités. La seule chose, c'est qu'il faut enfin aider les classes moyennes, je le disais tout à l'heure, en essayant d'augmenter les revenus du travail pour que l'assistanat ne soit pas préféré au détriment du travail. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, encore une fois, je le redis, c'est d'augmenter les revenus du travail en baissant la CSG. Et quand on baisse la CSG, évidemment, ce qui rentre dans la poche des salariés est beaucoup plus, et tout simplement, du net et du positif.
David Guiraud pour la France Insoumise.
Ah bah moi, je le redis, on est en train de vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, là, je le redis pour les APL, quand même, c'est important que les gens comprennent. Ils nous disent que ça va augmenter de 3,5% les loyers, d'accord ? Et qu'en même temps, ils vont augmenter les APL de 3,5%. Même si vous touchez les APL, vous allez payer plus de 200 euros par mois en plus. C'est pas en moins, c'est en plus. C'est-à-dire, même cette aide-là, c'est pas une aide. C'est 200 euros en plus qu'on va vous prendre par mois, si vous touchez les APL. Si vous ne les touchez pas, c'est 300, ça va être environ 300 euros par mois que vous allez payer en plus. Donc, ce n'est pas une aide, en fait. Je veux dire, on essaye de nous dire, on est en train de vous aider. Non, 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 non. On est en train d'accepter la hausse des loyers. Okay. Ça, c'est un choix politique, hein, d'accepter cette hausse-là. On aurait pu bloquer à 0% d'augmentation. On bloque à 3,5, on aurait pu bloquer à 0. Non, mais je veux dire, c'est un choix de société. Ah, donc, voilà. Et en échange, on fait payer les Français
donc
200
euros. Donc,
vous
ne voterez pas cette
loi-là, sur un an.
Très clairement.
En tout cas, sur ce sujet-là,
sur
non.
Sur ce volet-là.
Après, nous, on essaye d'être utile. On va voir le projet de loi, hein, on va discuter, on va regarder. Mais ça, typiquement, sur la question du logement, qui, je vous l'assure, c'est en train de devenir... Là, socialement, ça devient un carnage. Donc, sur la question du logement, par exemple, sur ça, bah, il est évident qu'on ne soutiendra pas une mesure comme ça. Parce qu'en fait, c'est prendre 200 euros français.
Sur le blocage des prix, par exemple. Voilà,
oui. Voilà. Bah, si on bloque les prix de l'alimentation, de l'énergie, de l'électricité, pourquoi pas ? Mais encore une fois, j'attends de voir ce qui va être proposé par le gouvernement. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'assurance que ça va être fait. Ils ne veulent pas le faire, hein, en vérité.
Mais c'est vrai.
Nous, de toute façon, on ne votera que les textes qu'on réussira à amender. Si on n'arrive pas à amender, justement, sur des mesures pérennes, parce que le blocage des prix et les chèques à gogo, ça ne fonctionne qu'un temps. C'est temporaire et ce sont des coûts supplémentaires. Donc nous, on est des gens sérieux, raisonnables, avec l'argent des Français. On a une éthique de responsabilité budgétaire.
Nous, on n'est pas fait ça.
Et donc, nous, ce qu'on propose, évidemment, ce sont des mesures pérennes mais non, qui mais s'installent attendez. Dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bah, oui. Mais moi je vois, mais il y a des choses qui ne sont pas sérieuses.
Mais le blocage des prix,
bah
c'est bien, mais ça ne fonctionne qu'un temps.
Mais ce n'est pas vrai,
faut,
regardez.
Non,
mais
pour attendez. Le coup, vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a une fracturation de la société française, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, et le vrai sujet, c'est la peur du déclassement. Il faut que nous répondions, nous, Républicains, parce qu'on doit parler aux classes populaires, à cette peur du déclassement. On est miné par cette peur du déclassement. Est-ce que le blocage des prix temporaire va suffire pour
mais
répondre
moi,
parce qu'ensuite, ils votent
hein.
Rassemblement National. Vous savez, ceux qui votent RN, ce n'est pas des fachos ou des racistes, c'est des gens qui n'en peuvent plus et qui sont en colère
sais, sur une des
parce
deux.
Qu'ils non, mais... sont inquiets l'idée de ce déclassement.
Dans une des deux villes de ma circonscription, à Ouattrolo, le RN fait quand même 33% au premier tour des présidentielles.
Et
on les a battus au premier tour des législatives parce qu'on était sur le terrain. Mais
et
typiquement, dans cette ville-là, c'est quoi le problème des gens? C'est justement qu'il n'y a pas de blocage des prix. Et quand vous nous dites qu'il faut être sérieux, ben c'est, moi, j'estime que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce qu'en fait, par exemple, vous regardez.
Mais comment vous répondez à cette peur du déclassement avec des mesures temporaires?
Mais c'est pas. Mais c'est même
pas temporaire. D'aller voter pour les
Regardez le prix des pâtes qui est en train d'exploser. Les gens galèrent même à manger.
Mais
là, c'est le prix des pâtes, il augmente pas à cause de la guerre en Ukraine.
Non.
C'est pas vrai, c'est un mouvement
c'est
de spéculation.
Parce que
là, on est en train de consommer des pâtes dont les récoltes ont été faites l'année dernière, avant la guerre en Ukraine. Donc ce qui n'est pas sérieux, c'est d'accepter la spéculation. Ce qui n'est pas sérieux, c'est d'accepter qu'il y ait des profiteurs de crise. Et ce qui n'est pas sérieux, c'est de ne pas considérer que l'État ne pourrait pas intervenir. Pourquoi ? On peut intervenir, il y a d'autres pays qui le font. Donc intervenons, on bloque les prix le temps qu'il faut. Mais il faut casser cette spirale de spéculation, casser cette spirale d'inflation. Et pour ça, il faut y aller à la racine du problème.
Maître Golnadel, vous avez dans le duel, la commentant LR-FI, vous avez un mot à dire.
Je vais vous surprendre sans doute, je suis du côté de Mme Evren.
voilà.
Mais cela étant, j'ai un peu honte à le dire. Moi, je suis dans une logique libérale et capitaliste. pardon, mais la démagogie, je sais bien, mais la gauche extrême aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. La réalité, elle est là. Sauf que...
C'est fin, ça se mange sans fin, ça.
Sauf que c'est de moi. Sauf que le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement est piégé lui-même puisqu'il a fini par convaincre les Français que l'argent magique existait. Il a généré une dette abyssale et maintenant, il tente de se rattraper par une logique inflationniste. Donc moi je sais bien que c'est pas facile d'avoir le rôle ingrat de dire que si jamais vous bloquez les loyers les propriétaires vont arrêter de louer et en vérité va y avoir une crise de logement. C'est pas facile mais c'est pourtant la réalité ingrate. Alors on peut aussi décider de réquisitionner les logements. Je vous mentirais en disant que j'aimerais vivre au Venezuela. La réalité, elle est là, donc voilà. J'endosse ce rôle.
Monsieur Guiraud, puis après, je vous passe la parole, parce que là, vous êtes mis en cause. Le Venezuela,
non,
la réquisition des logements.
Oui, non, mais vous, voilà, Staline, etc. On connaît, on a tendance ce qui est indécent et ce qui est extrême
dans
ce pays. Oui, voilà, non, mais c'est bon, moi je connais, je suis vacciné.
L'admiration, les régimes autoritaires.
Moi, je ne suis pas extrême. Ce qui est extrême, c'est les prix à la pompe, là. C'est 2 euros le litre d'essence. Ça, c'est extrême, vous voyez, pour la vie des gens. Donc en fait, si on fait rien. Là, ça va être extrême. Et je peux vous dire que quand ils vont descendre dans la rue, les gilets jaunes, à côté, ça va être... C'était l'échauffement. Voilà. Donc, il y a un moment, en fait, si on ne considère pas ça... Moi, quand je vous parle du logement dans le quartier de l'Épaule, mais il y a un moment, les gens, en fait, quand ils pourront plus payer, ils vont faire comment? Vous croyez qu'ils vont laisser leurs gamins, comme ça, être à la rue? Vous parlez de réquisition, si on pouvait réquisitionner les logements vides, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens à la rue, vous avez vu à Paris, vous prenez le métro, vous faites une station, vous avez déjà vu 2 ou 3 SDF. Ça, c'est extrême. Voilà, ça c'est extrême. Donc moi, s'il faut prendre des mesures où l'État intervient et dit, par exemple, oui, il y a des logements vides pour un temps, on peut les réquisitionner. Moi, je suis pas du tout contre, vous voyez. Et c'est vrai que je suis pas libéral. Voilà, c'est vrai, on a un débat de fond là-dedans dans la société. Je suis pas libéral. Faut que le marché arrête de faire sa loi, parce que le marché ça marche pas. Le marché c'est 12% d'augmentation sur les pâtes, c'est le prix de l'huile d'olive, c'est les 2 euros à la pompe, et c'est maintenant les régularisations de tarifs d'électricité. Voilà. Moi, j'estime que c'est vous qui êtes extrême, parce que la réalité pour beaucoup de Français, elle est extrême.
Et c'est pas du tout extrême de proposer justement de ramener le prix à la pompe à 1,50€ en baissant les taxes. Voilà, TICP.
Moi, c'est pas les taxes que je veux baisser, c'est ramener le prix en cassant la logique de spéculation.
Nous, on a des propositions aussi concrètes que les vôtres, puisqu'on propose de ramener le prix.
Je suis en désaccord avec.
Et il y a un autre sujet qui a été d'ailleurs pointé du doigt ce matin par Bruno Le Maire, c'est en effet la réduction des dépenses. Moi, je le dis en tant que députée européenne, il faut savoir que Emmanuel Macron n'a toujours pas transmis le pacte de stabilité annuel à Bruxelles, qui trace en fait la trajectoire des déficits et de la dette.
Ils ne l'ont pas fait l'année dernière ?
Il devait le transmettre au mois d'avril. Et comme là, on a complètement ouvert les vannes pour permettre justement...
C'est
technique et en même temps, ça prouve bien qu'on ouvre les vannes et qu'en fait,
d'accord,
on ne se soucie pas de faire exploser la dette et les déficits. Il faut quand même le rappeler.
Alors, juste une information qui nous parvient. Le parquet de Paris affirme que le ministre Damien Abad, ministre des Solidarités, est donc visé par une plainte pour tentative de viol. Visiblement, il s'agit d'une des femmes qui avaient déjà affirmé qu'elles étaient une femme qui avait été agressée par lui, mais elle n'avait pas porté plainte à l'époque. Elle avait témoigné de façon non pas anonyme, elle ne voulait pas porter plainte. C'est ce qu'elle a donc fait. Maître Golnadel, cette plainte pour tentative de viol va sans doute compliquer le maintien de Damien Abad au gouvernement.
Ah oui, alors. Je ne dis pas que c'est bien, que ça le complique, parce que moi, personnellement, j'ai proposé depuis longtemps, dans le désert, que dans ces affaires-là, Je ne suis pas pour la publicité tant que la personne n'a pas été mise en examen. Quand elle est mise en examen, c'est que ça veut dire qu'il y a des débuts de présomption et le droit à l'information doit primer. Mais vous savez, une plainte, tout le monde peut porter plainte. Alors évidemment, c'est sérieux, mais pour autant, c'est plus M. Abad qui m'inspire qu'une sympathie très bornée compte tenu de la manière dont il a quitté son propre parti. Il est vraiment présumé innocent, donc ça me gêne quelque part. Mais une fois que je vous ai évoqué mes états d'âme, évidemment, comme je connais la chanson, ça risque effectivement de perturber un petit peu la sérénité de ce gouvernement déjà peu serein.
C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà deux plaintes qui avaient été classées sans suite, et là, Agnès Evren, on est face à une nouvelle plainte pour tentative de viol contre Damien Abad.
Alors, dans ces affaires, moi, je pense absolument, mais bon, qu'il soit LR, PS ou autre, ça n'enlève strictement rien à la gravité des faits. Ce n'est pas une question d'appartenance politique. Mais je pense que dans ces affaires-là, il y a deux principes fondamentaux à respecter. Le premier, c'est la parole des victimes, évidemment, et moi, je me situerai toujours de côté de la parole des victimes, mais aussi la présomption d'innocence. Sinon, sur la base de rumeurs, on peut raconter n'importe quoi et ce serait encore plus dangereux. Maintenant, je ne vois pas comment est-ce que Damien Abad peut sereinement continuer sa mission au sein de ce gouvernement. D'ailleurs, je crois que c'est Elisabeth Borne elle-même qui avait dit que, dans l'état actuel des faits, n'ayant pas reçu de plainte, il n'était pas possible de prendre une décision de le maintenir ou pas au gouvernement. À partir du moment où une plainte est déposée, évidemment, c'est au gouvernement et à la Première ministre de prendre ses responsabilités.
Damien Abad qui réagit, qui dit qu'il ne laissera pas ses accusations mensongères, scandaleuses, sans réponse. Il demande à ses avocats de déposer une plainte en dénonçant calomnieuse. David Guiraud, sur ce dossier.
Donc ça va feuilletonner.
Déjà, il faut saluer la démarche de cette femme, parce que moi, je reste persuadé qu'il faut aller vers la plainte. C'est le plus important. Et en fait, elle le fait. Elle ne sait même pas si elle va gagner, parce que les faits remontent d'il y a très longtemps. C'est très difficile à prouver, mais il faut aller vers le dépôt de plainte, justement, parce que non seulement ça permet d'avoir une procédure judiciaire, parce qu'on est dans un état de droit, mais aussi, y compris à M. Abad, de pouvoir se défendre, c'est-à-dire d'avoir les faits, de pouvoir répondre dans un procès, etc. D'ici là, très honnêtement, vu qu'il y a quand même plusieurs femmes qui ne se connaissent pas, qui parlent avec des témoignages qui sont revenus de plusieurs côtés sans qu'il y ait aucune organisation de tout ça, bah oui, ça me paraît quand même très compliqué politiquement qu'il reste à son poste.
Mais il faut que les femmes qui sont victimes portent plainte. On est d'accord.
Mais vous savez, c'est pas facile pour elle parce que y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite. Les plaintes pour viol, il y en a
parce
énormément.
C'est votre parole contre la mienne, c'est ça la difficulté.
C'est ce qui est difficile, ouais, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir et un gros boulot encore à avoir en matière justement de fonctionnement de l'institution judiciaire, en matière de recueil des plaintes, etc. etc. Donc le problème ne sera pas réglé tant qu'on n'aura pas avancé là-dessus. Mais oui, moi je reste persuadé qu'il faut aller vers le dépôt de plainte.
Maître Golnadel.
Mais il ne vous a pas échappé que nous ne vivions pas dans un monde idéal. Donc le fait de dire la parole des femmes, il faut écouter la parole des femmes, il y a des femmes qui disent la vérité. Il y a des femmes qui mentent, il y a des femmes mythomanes, il y a des femmes vengeresses, il y a des femmes avides de gain, il y a tout.
Il y a aussi des femmes victimes.
Mais j'ai commencé par
vous
ça.
Vous avez commencé par ça.
J'ai commencé par ça. Donc ce que je veux dire, la plainte, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum, mais c'est pas parce que vous avez porté plainte que vous avez raison. Donc pardon d'être... Et c'est l'avocat qui vous parle... rencontre aussi beaucoup d'hommes qui vous disent qu'ils sont l'objet, justement, parce qu'ils rencontrent des problèmes dans leur couple, de chantage à ça. Et je rencontre aussi des femmes qui ont été victimes de viols. Donc, je suis porté, si vous voulez, envers toutes et tous, comme on dit, à une extrême prudence. Mais en tous les cas, avant, une chose est certaine, c'est qu'avant ce dépôt de plainte, la publicité qui a été faite sur cette affaire me paraît tout à fait scandaleuse. Alors là, vraiment, totalement scandaleuse. Maintenant qu'il y a une plainte, ça devient quand même plus sérieux pour l'intéressé. Ça, je ne peux pas dire le contraire.
Agnès Evren, un dernier mot sur cette situation.
Je pense que c'est maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais là où vous avez raison, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pour ça que
ça
parfois les plaintes n'aboutissent pas. C'est qu'en fait, quand ils sont deux, c'est une parole contre l'autre. Comment prouver ? C'est ça toute la difficulté.
Il y a quand même beaucoup de collectifs, y compris même il y a une prise en compte dans les pouvoirs publics, de dire comment est-ce qu'on réagit au lendemain, comment est-ce qu'on fait les prélèvements, etc. C'est des choses qui ne sont pas faciles. Comment est-ce que la police accueille la plainte, comment est-ce que l'institution médicale aussi réagit. En fait, c'est tout ça qui, sur quoi il faut avancer. Parce qu'en fait, le classement sans suite, c'est aussi souvent le résultat d'un dysfonctionnement en général derrière.
Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question de l'avortement. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution française? Le débat est ouvert. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur le plateau de Punchline, Europe 1 CNews, avec David Guiraud de la France Insoumise, Agnès Evren des Républicains et Maître Gilles-William Golnadel. Après la décision de la Cour suprême américaine, faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution française? Est-ce que le droit à l'avortement, instauré par la loi Veil en 75, est menacé dans notre pays? Aucun parti politique, a priori, n'en réclame son abrogation. Maître Golnadel, quel est votre avis? Il faut l'inscrire dans la Constitution?
Écoutez, j'ai commis un article dans le Figaro pour dire que nous sommes dans une hystérie médiatique totale. Oui. D'abord, je vous renvoie à l'excellent article de Laure Mandeville qui relativise un peu ce qu'on dit sur les États-Unis. Bien sûr qu'il y a des fous furieux qui veulent un retour en arrière, mais la plupart des républicains, eux, sont favorables à l'avortement, mais ne veulent pas qu'on puisse avorter ce qui arrive aux États-Unis à la 29e semaine ou proche de l'accouchement. Là, on est dans l'infanticide, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même assez curieux qu'on ait glosé depuis deux jours sur ce qui se passe à la Cour suprême des États-Unis, mais qu'il n'y ait eu aucun débat en France sur le fait qu'on soit passé de l'avortement de la 12e semaine à la 14e semaine. Le président n'était pas favorable, la gauche féministe l'a emporté 14e semaine, et qu'on a voté d'une manière invraisemblable en catimini une loi qui autorise un avortement, en vérité un infanticide,
thérapeutique,
en cas de risque psychosocial, dans le 9e mois de la grossesse. Ça aurait dû mériter, on est en France, on habitait en France, ça aurait dû mériter au moins le même débat que ce qui se passe dans un pays étranger. Et enfin et surtout, alors que qu'on raisonne comme ça, à chaud, de manière pavlovienne, sous prétexte que la Cour suprême des États-Unis, dans le cadre d'un gouvernement des juges, alors là ça gêne le gouvernement des juges, tout d'un coup ça gêne, mais que du coup, tout de suite, toute affaire cessante, alors qu'il y a eu, personne ne propose le retour au statu quo ante à inscrire cette loi dans la Constitution. Je trouve ça totalement hystérique. La réalité, elle est là. Vous savez, j'ai d'autres propositions qu'on peut proposer comme loi constitutionnelle. Par exemple, le droit des Français de vivre souverainement dans un pays sans être envahi par des étrangers illégaux. Ça devrait être inscrit dans le marbre constitutionnel et d'une certaine manière, ça le mériterait davantage parce que c'est un droit qui est foulé aux pieds, contrairement aux lois
à l'avortement. J'ai entendu réagir David Guiraud, voilà. La France Insoumise, et ensuite voilà. Je passerai la parole à Agnès Evren.
Oui, non, mais c'est Gilles-William Golnadel, moi ça me fait rire parce qu'on parlait des salaires tout à l'heure, il était comme ça, la main dans la tête, on dirait qu'il était en train de faire un AVC, là tout de suite, top! La gauche féministe, les migrants, etc. Il s'est réveillé, il manque plus que l'islam et la pizza est complète.
Quand vous voulez sur l'islam.
Donc, je me doute. Sur l'avortement. Les idées politiques, elles sont jamais statiques. Ou elles avancent, ou elles reculent. C'est ça la vie politique. C'est une bataille des idées, ça existe. Déjà, il y a les faits. Vous avez, par exemple, en 10 ans, 130 centres qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse qui ont fermé en France. Hein. Donc ça, c'est un fait. Et puis, vous avez des responsables politiques qui, aujourd'hui, se cachent, mais ils se cachaient aux États-Unis aussi il y a quelques années, il y a quelques années, souvenez-vous, Marine Le Pen qui parlait en 2011, par exemple, c'était il y a 10 ans. On pourrait se dire, ça y est, elle a bien changé, etc. Non, elle a changé parce qu'il y a une pression de la société, parce qu'on mène le combat politique. Et il faut qu'on continue à mener ce combat politique.
Donc il faut inscrire le droit dans la Constitution.
Et puis oui, je le pense, parce que c'est le droit à disposer de son corps. C'est un droit fondamental. On ne parle pas de l'ego ou autre. On parle pour les femmes du droit à disposer de leur corps. Et oui, il faut l'inscrire dans la Constitution. Et ce qu'on a fait avec la NUP, aujourd'hui, on a déposé une proposition de loi constitutionnelle. On l'a adressée à l'ensemble des députés, à nos collègues députés de l'Assemblée nationale. Et on espère que La République En Marche, qui n'était pas d'accord il y a quelques temps, hein, quand on en avait parlé en 2018, on espère que...
Ils avaient rejeté, ils avaient dit
groupe,
non.
Ils avaient dit non, que cette fois-ci, ils vont l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et voter. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà.
Évidemment, moi, je suis absolument pas d'accord. Et ça symbolise exactement l'exception française. On réagit systématiquement sous le coup de l'émotion. immédiatement. Alors que la loi Veil est une grande avancée et qu'elle est désormais inscrite dans le marbre, c'est notre droit fondamental et que je pense que ce droit n'est pas menacé aujourd'hui en France et que la priorité des priorités, c'est franchement pas ça. La priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et vous devriez tenir le même langage. Si vous voulez le blocage des prix, on va encore passer
Une fois qu'on en a parlé pas mal sur un plateau télé, je vais pas
mais
me
plaindre. Mais non, on va encore passer un an pour discuter d'une révision constitutionnelle pour l'inscrire dans le droit, alors qu'on a franchement d'autres priorités, sachant encore une fois que c'est un combat qui a été gagné difficilement, douloureusement, mais qui est désormais inscrit définitivement dans nos droits fondamentaux. Et donc, c'est pour le coup totalement inutile et c'est pas un gage d'efficacité.
Ça sert à rien pour vous.
Non, parce que je ne pense pas que ce droit soit menacé et qu'on a d'autres priorités aujourd'hui que de diviser encore une fois.
Ça peut servir à Aurore Berger de pouvoir atteindre
de la République en marche.
De la République en marche, de pouvoir atteindre la majorité quelque part. Ça, je vois l'utilité de ce côté-là.
Ah oui, ça pourrait, voilà, je l'espère.
C'est la seule utilité
l'unanimité
de cette histoire.
Là, ils auraient la majorité absolue. Voilà.
Mais c'est ça, c'est là où je suis pas d'accord. C'est que aux États-Unis, les gens pensaient que c'était bon, quoi. En fait, un droit, c'est jamais bon. Et notamment les droits des femmes qui ont souvent tendance à reculer en temps de crise. Il y a des gens qui menacent.
Personne ne remet en question la loi Veil.
Regardez, je vais vous dire, Madame Parmentier, qui est élue aujourd'hui, qui est députée, enfin, je veux dire, c'est pas rien.
Rassemblement National.
Elle disait, en 2018, elle comparait l'IVG à un génocide. Vous avez Monsieur Delépinay, je crois, octobre 2020, pareil. Il compare l'avortement de 14 semaines. Je veux bien qu'on ait des désaccords là-dessus, mais pareil, un génocide. Madame Lavalette, en 2014, qui a signé un texte dans le Choisir la vie,
pour quatre
où elle s'engage
un peu
à
extrême,
abroger la loi sur l'avortement.
On va passer un an à discuter.
Non, madame, c'est pas quatre députés un peu extrêmes. Déjà, ils sont 89, le Rassemblement National. Vous ne savez pas si dans les 89, combien il y en a qui sont contre l'interruption volontaire de grossesse. Donc oui, c'est normal, à mon avis, de dire il faut protéger. Et parmi, il y a le Rassemblement
le temps,
National, et puis il y a dans la société.
Mmh.
Il y a des gens dans la société qui sont contre l'interruption volontaire de grossesse et qui font campagne pour ça. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a le droit à l'IVG, mais ce droit, en pratique, est difficile. Quand je vous dis qu'il y a 130 centres, justement, où on pratique l'IVG, qui ont fermé en 10 ans...
Et des menaces contre les médecins très régulièrement.
Mais moi, le partisan acharné de la loi Veil, qui était une loi de l'équilibre, dont l'équilibre a été modifié en passant de 12 à 14e semaine, ne considère pas les gens qui sont opposés à l'avortement comme des salauds intégraux. Hein. Mmh. C'est pas aussi simple que ça du tout. Et quand je vois une manifestante aux États-Unis contre l'arrêt de la Cour suprême avec un ventre comme cela, qui risque d'accoucher dès demain matin à 9h, où il écrit sur son ventre « ce bébé n'est pas une personne », je me pose des questions, si vous voulez. C'est pas aussi simple que ça, mais en tous les cas en France, y compris le Rassemblement National, n'est pas opposé à l'avortement, qui doit rester d'ailleurs considéré comme un drame et non pas comme une lettre à la poste. Je vous signale que maintenant, beaucoup de jeunes sont opposés à la contraception. Ils ont peur de la contraception. Il y a des théories complotistes contre la contraception. Ça mériterait qu'on en discute, ça aussi.
Et donc, du coup, c'est quoi la solution? C'est qu'on ne fasse pas la contraception. C'est pas parce que dans la société, il y a des reculs qu'on doit, nous, accepter. Je ne sais pas. Moi, je suis militant politique. Mmh. Moi, ce n'est pas parce que dans la société, il y a des gens qui reculent que je ne défends pas la contraception. Parce que la contraception... Pour des jeunes, quand on a 15, même parfois 14 ans, c'est les premières relations sexuelles, on n'est pas au courant. Ouais. Puis voilà, ça se fait, elles ont le droit.
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est aussi que vu que ça recule, quelque part, ça justifierait je ne sais pas quelle position.
Je suis en train de vous dire que le planning familial, plutôt que de faire l'apologie de l'avortement, serait bien inspiré de faire la publicité pour la contraception.
Mais personne, enfin, honnêtement, tout le monde le sait que c'est pas facile un IVG. Enfin, d'ailleurs, les femmes en premier lieu. Mais les gens sont au courant. Une grande fierté de se dire ah super,
évidemment,
j'ai avorté. Mais c'est pas ça la question. Mais c'est pas non plus un traumatisme. Ça fait partie de la vie. Ouais. Et on a le droit de maîtriser son corps. Les femmes ont le droit de dire.
Si, c'est un grand traumatisme. Un IVG, c'est un très très grand traumatisme.
Toutes les femmes.
Vous êtes une femme. C'est.
Non, mais d'accord.
Mettez-vous à la place des femmes. C'est un énorme traumatisme.
Mais je discute quand même avec des gens qui sont au planning familial, avec des militantes.
On est bien placé.
C'est pas un traumatisme pour tout le monde.
Il ne faudrait pas qu'un féminisme dévoyé fasse en sorte de ne parler que du droit des femmes. Il y a aussi le droit des enfants à naître. Donc, le juste équilibre, je trouve qu'il avait été bien trouvé avec la loi qui prévoyait un avortement dans la 12e semaine.
Moi, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un droit dans des enfants à naître. Hein.
Bon.
Ça,
ah
c'est
bon
une conception. Bah, oui, oui.
Ah bon, bah, vous savez, alors, vous savez, avec les.
C'est une question philosophique.
Vous devriez. Non, c'est pas seulement philosophique.
Moral, religieux, si vous voulez.
Pas seulement philosophique, aussi scientifique. On sait maintenant ce qu'est la vie d'un fœtus, la vie cérébrale d'un fœtus. Il est curieux que les mêmes qui sont opposés à la peine de mort pour les assassins ne réfléchissent pas davantage aussi au droit à la vie.
Mais si vous
pour
avez
des raisons
idéologiques. Mais justement,
pardon,
vous auriez
pour des raisons idéologiques.
Pour des raisons idéologiques ou de facilité. Je suis incapable de vous dire ce qui se passe dans la tête des gens, mais je trouve quand même bizarre, étrange, que les personnes qui ont voté une loi qui prévoit un infanticide dans le 9e mois...
Ça, c'est votre mot. Vous n'avez pas très bien suivi. D'ailleurs, ça n'a pas été fait dans la précipitation. Vous savez, la loi bioéthique, par exemple, ça a été des heures et des heures de débat. D'ailleurs, c'était très intéressant. Parce que moi, je peux comprendre que ce soit des sujets qui soient justement, qui touchent à l'intime, à notre conception de...
Et à la liberté de disposer de son corps.
Par contre, sur les faits scientifiques... Non, je suis désolé, sur les faits scientifiques, vous n'êtes pas très renseigné. Et vous utilisez des mots qui sont ceux de la droite la plus réactionnaire. Mais je tiens à le replacer dans ce contexte-là. Vos mots sont ceux de la droite la plus réactionnaire. L'infanticide, c'est pas, par exemple, c'est pas ce qu'utilisent, y compris des gens qui sont contre l'allongement de 12 à 14
quand
mois.
Quand on supprime la vie d'un être au 9e mois de la grossesse, j'ai un problème de vocabulaire si ça s'appelle pas un infanticide.
Sur le 9e mois de la grossesse, vous savez très bien que c'est dans des circonstances extrêmement
exceptionnelles. Parfois, les femmes n'ont pas le choix.
Ça a beau être exceptionnel.
Oui.
Il n'en demeure pas moins que c'est étrange que la même personne qui soit opposée à enlever la vie d'un assassin, accepte cette solution-là.
C'est pas...
Mais c'est la
liberté de disposer de son corps.
Personne ne peut juger. Par rapport à la...
Par
rapport à la folie du temps... Par rapport à la folie du temps, j'accepte le qualificatif réactionnaire.
Je sais que vous en revendiquez, mais
je le revendique, puisque je veux réagir contre, effectivement, une société
qui... Mais vous réagissez sur des bases scientifiques qui sont fausses. L'embryon, n'est pas une personne humaine de 35 ans qu'on condamne à mort. Voilà, c'est pas la même chose. Je suis désolé, vous faites des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être d'un point de vue scientifique,
Je vous parle d'un enfant dans le 9e mois de la grossesse.
Vous parliez de la 14e semaine,
dans la 14e semaine, vous verrez, renseignez-vous si...
On parlait d'infanticide, je suis désolé.
Non, là, mais pas du tout. Je parle d'infanticide pour le 9e mois de la grossesse. Je parle pas de...
Ça n'a rien à voir. Combien de gens par année, ça, le 9e mois de la grossesse? Ça concerne combien de gens? C'est des faits extrêmement minoritaires, monsieur Goldnadel. Vous prenez cet exemple. Oui. En fait, vous prenez cet exemple, c'est une stratégie rhétorique bien connue. Oui. Vous le prenez pour, en fait, revenir sur la question des 14 semaines.
Si on mettait fin à la vie d'un assassin une fois par an, ça vous paraîtrait normal ou pas normal?
Vous voyez, c'est les vieilles techniques d'avocat.
Il arrive que les avocats aient raison.
Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'avortement est un droit fondamental et qu'il n'est pas question de le remettre en question.
On a parlé du droit à l'avortement, on pourrait aussi parler du droit à la sécurité, parce que ça aussi, il y a un certain nombre de Français qui aimeraient bien qu'on l'inscrive dans la Constitution, peut-être le droit à vivre en sécurité et en paix dans notre pays.
Ça tombe bien.
Dans la loi.
La sûreté. C'est dans la Constitution.
Elle n'est pas assurée partout sur tout le territoire. On s'est rendu à nouveau à la Villette où, vous le savez, les habitants sont excédés par les nuisances causées par les toxicomanes accros au crack. Régine Delfour et Olivier Gangloff étaient sur place il y a quelques instants.
Nous sommes dans le quartier des Quatre Chemins, dans la commune de Pantin, qui se situe juste à quelques mètres du camp des consommateurs de crack. Ils sont installés depuis le 24 septembre. Je vous rappelle qu'il était question d'une installation de quelques heures, voire quelques jours. Et maintenant, ça fait déjà 9 mois qu'ils sont là. Alors, nous avons pu rencontrer des riverains, des commerçants qui sont à bout. Je vous propose de les écouter.
La raison officielle d'avoir mis ces gens ici, c'est parce qu'il n'y a pas de riverains. Les riverains, ils ne sont pas parisiens. Donc, en réalité, il faut dire, il n'y a pas de riverains parisiens. En gros, les bourgeois, on va les calmer, puis tant pis pour les pauvres.
C'est un peu un enfer depuis 9 mois. Ils sont là toute la journée devant la pharmacie. Ils sont là derrière les clients à leur demander de l'argent toute la journée. Ils se mettent même à quatre pattes pour leur demander de l'argent. La situation devient vraiment insoutenable. J'ai un pharmacien, il y a 3-4 mois, qui a été victime d'une agression à coups de cutter dans le dos.
Une inquiétude grandissante hein, face à cette insécurité que connaissent les riverains. Alors nous avons rencontré beaucoup d'habitants, hein. Certains ont même préféré garder l'anonymat hein, pour des raisons de peur évidemment. Nous avons évidemment aussi vu des commerçants, certains nous ont confié se faire accompagner le soir par peur d'être agressés. D'autres nous ont dit qu'ils allaient peut-être mettre la clé sous la porte.
Merci Régine Delfour, Olivier Gangloff. Ça, Maître Golnadel, ça c'est le droit à la sécurité que certains pourraient réclamer.
Pardon, il est foulé aux pieds, y compris à l'intérieur de Paris. Tout le monde est victime, hein. Tout le monde est victime, parce que ceux qui prennent du crack, l'accoutumance, elle est quasi immédiate. Ils y sont complètement. Ils sont accros très vite, et puis les gens, les riverains, etc., ils n'en peuvent plus. Il y avait à l'intérieur même des bons bobos qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement. Il faut dire un peu, sans esprit trop de polémique, que parmi les dealers de crack, les mineurs migrants isolés sont très nombreux. Donc, on peut quand même faire le lien avec l'immigration.
C'est vrai. Mais ce qui est triste, c'est qu'à Paris, c'est finalement le crack qui dicte sa loi. Et on voit là l'impuissance de l'État à gérer ce problème, parce qu'en fait, on déplace de lieu en lieu les crackers, au détriment évidemment des riverains qui n'en peuvent plus. Nous, on avait demandé en fait des structures de prise en charge globales, et pour se battre en fait sur les deux fronts, le front sanitaire et le front sécuritaire. On n'a jamais été entendu, et ça continue aujourd'hui. Chacun se renvoie la balle. Donc, Madame Hidalgo dit, c'est pas mon sujet, c'est le sujet de l'État. On n'a pas les moyens. Et puis, finalement, ceux qui trinquent, ce sont encore une fois les riverains. Mais je pense que pour le coup, là, il va falloir prendre le sujet à bras le corps. Je ne sais pas si Madame Hidalgo
aura... De façon transpartisane.
Transpartisane. Et encore une fois, sur une prise en charge globale, c'est-à-dire à la fois sur le préventif et le sécuritaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sur la santé. Voilà, le sanitaire.
David Guiraud, sur ces.
Oui, parce que faut le comprendre. C'est vrai que c'est difficile à vivre hein, quand on est dans le quartier, mais les premiers responsables de ça, c'est la mairie de Paris et notamment l'État. Ce qu'ils ont dit aux gens, qu'en fait, vous l'avez dit dans votre reportage, ça devait durer que quelques jours au début, cette installation. Mais en fait, l'État, sa politique aujourd'hui, c'est une politique uniquement sécuritaire qui consiste à déplacer les gens.
C'est ça, on déplace
comme ça,
le problème,
comme
on le résout pas.
Et on les déplace. Donc forcément, à chaque fois, il y a un problème. Et nous, le député de Pantin, Sébastien Lachaud, donc, bah, il a fait des manifestations, il a interpellé les pouvoirs publics, ils ont fait des pétitions, il y a plusieurs d'ailleurs, il n'y avait pas que la France insoumise là-dedans. Il y a silence des institutions, au moins à chaque fois des réponses évasives. Et depuis le début, on dit ça, moi je suis d'accord avec Mme Evren, c'est que il y a besoin d'une réponse sanitaire et sociale. Il faut arrêter de considérer que c'est uniquement un problème de sécurité. Oui, parce sûr. Que s'il n'y a pas de lieu d'accueil, de structure d'accueil, de structure d'accueil notamment de prise en charge, le jour et la nuit, et ben en fait, vous vous retrouvez avec des gens qui sont l'addiction au crack, voilà quoi. Vous
et
voyez,
on les construit
vous voyez
où,
ce que
les structures d'accueil ?
Dans des lieux sûrs et si possible... dans des lieux où il n'y a pas trop de passages, parce que la Villette, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il devait y passer pas longtemps en se disant, il n'y a pas trop de passages à la Villette. Si, il y en a, en fait, voilà. Donc, c'est un problème. Et qu'il soit aussi concerté en amont avec les gens. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas découvrir du jour au lendemain qu'il y a ça. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que la plupart des gens.
Si on les concerte.
Non, mais ça dépend comment ça se passe. Parce que vous savez, la plupart des gens, quand ils voient aussi ces gens-là, ils essayent d'aider. Hein. Dans le quartier, il y a aussi des actions de solidarité. Les gens ne sont pas des salauds, etc. Mais c'est vrai que la nuit, par exemple, vous avez des gens qui n'ont pas de toit sur la tête, qui errent et qui, en plus, sont sous crack. Forcément, vous pouvez avoir des agressions. Et puis, même ces gens-là ne sont pas dans des situations convenables.
Donc, c'est qu'ensuite, les riverains se font justice eux-mêmes et ils avaient tiré au mortier contre les crackers.
Parce que
la police.
C'était à
Salingrad, Paris. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi être pragmatique et se dire qu'on ne peut pas laisser les riverains abandonner à leur propre sort et qu'on a besoin de mettre en place cette structure.
Y compris avoir des policiers en nombre suffisant dans le coin. Parce que
sécuriser les lieux, mais bien
forcément.
Évidemment.
Mais ce que je veux dire, c'est que tant que la réponse n'est pas sanitaire, sociale et aussi sécuritaire quand même, parce que, en tout cas, voilà, faut qu'il y ait de la police dans les environs, parce qu'on comprend bien ce qui se passe sinon, ça n'évoluera pas. Et on va juste déplacer les gens par petits paquets, comme si c'était des sacs de pommes de terre, et ça ne peut pas le faire.
Maître Golnadel, plus de policiers sur le terrain de David Guiraud, de la France Insoumise, vous voyez ?
Oui.
Oui,
tout arrive.
Je constate que il arrive que la police ne tue pas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre, cela étant, oui, je
suis... Ne réponds pas pour l'instant.
Parce que ça sert à rien, les polémiques comme ça, ça ne règle pas les problèmes des gens.
C'était une boutade, monsieur Guiraud. Par ailleurs, je suis, vous voyez, pour une fois, c'est historique, je suis d'accord avec monsieur Guiraud.
On a trouvé gouvernement d'Union nationale
Madame Hidalgo était grandement responsable de cette situation, avec aussi son responsable chargé du logement. Elle avait dit que les migrants étaient les bienvenus. Et maintenant, elles, qui sont, encore une fois, je le répète, grandement responsables pour les mineurs isolés de la session de crack. Et ils sont victimes aussi, puisqu'ils
ils
en prennent...
Ils sont victimes, ils font partie
des
réseaux de...
Et ils en prennent eux-mêmes. Donc, comme ça, tout est bien. Et maintenant qu'on les a sur les bras, vous savez, il n'y a pas de... je vous ai dit que nous ne vivions pas dans un monde idéal. Donc, c'est gentil de dire, on est dans une situation quasiment inextricable, mais si on pouvait arrêter le phénomène, ce serait quand même bien.
Agnès Evren, je parlais de gouvernement d'union nationale, c'était évidemment un clin d'œil. Les LR, on a trouvé un consensus sur le sujet en tout cas. Les LR participeront au prochain gouvernement que tente de former Mme Borne.
Le parti a répondu là-dessus, on met la charrue avant les bœufs. Sur quel projet ? Emmanuel Macron a été élu sans projet. Donc c'est difficile de signer un chèque en blanc puisque, regardez en Allemagne par exemple, ils se mettent d'abord d'accord sur un projet et ensuite... Éventuellement 6 mois sur la réduction de la dette, sur les questions de sécurité, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions aussi de réchauffement climatique. Sur tous ces sujets-là, si on arrive à se mettre d'accord, pourquoi pas ? Mais là, en l'occurrence, il faut se mettre aussi à la place de ces députés, ces 61 valeureux députés qui ont réussi à se faire élire et qui, pour certains, ont battu les candidats du président. Ils ont été élus sur quoi ? Ils ont été élus pour un mandat d'opposants. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs électeurs ? Ils vont retourner à l'Assemblée en disant « ça y est, maintenant je fais partie de la majorité ». Ils vont trahir leurs électeurs. Donc ce n'est même pas une question vis-à-vis du parti politique, c'est de ne pas trahir la confiance des électeurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, on votera les textes qu'on réussit à amender. Si on n'amende pas les textes, on ne les votera pas. Et donc c'est au président maintenant de prendre ses responsabilités et d'arriver dans la clarté en nous disant « écoutez, on va réduire la dette ». On va augmenter les revenus du travail, on
David
va
Guiraud,
travailler sur la,
un tout
sur
petit
la politique
pénale. Fin de l'émission. Pas un membre de l'ANUPS dans le gouvernement d'Elisabeth Borne ?
Ah bah non, c'est pas du tout à l'ordre du jour, je vous confirme. Mais
ils ne sont pas conviés à la table, justement.
Oui, bah nous, on ne nous a même pas invités, il a compris.
France Insoumise, moi je parlais d'ANUPS, là.
Mais ils ont compris quand même que ça allait être compliqué, mais parce que c'est vrai, on a été élus avec un mandat, je veux dire, les gens, ils nous attendent au tournant. Moi, à Roubaix, à Ouattrolo, le taux de pauvreté, c'est quand même 35%. La moyenne nationale, c'est 14. C'est-à-dire, une personne sur trois vit quand même avec moins de 1 000 euros par mois. Et il y a des gens qui bossent là-dedans, je veux dire, à Ouattrolo, vous y allez, qui ne peuvent même plus aller bosser parce que le litre d'essence, il est à 2 euros et que tout est loin. Que l'hôpital, le service des urgences, il est fermé entre minuit et 6 heures. Donc, si vous avez un pépin de santé, vous prenez la voiture, vous allez autre part. Enfin, c'est que comme ça partout. Donc,
David Guiraud, merci beaucoup.
On a des responsabilités vis-à-vis des électeurs.
Agnès Evren, Maître Golnadel. Dans un instant, la suite de nos débats sur Europe 1 et tout de suite, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Zelani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Un centre commercial bombardé par les Russes dans le centre de l'Ukraine. Au moins 10 morts, une quarantaine de blessés. Bilan encore très provisoire. Détail dans un instant.
La fin du procès des attentats du 13 novembre. La parole était aux accusés avant le verdict mercredi. Dans ce journal, la mission, non pas impossible, mais compliquée d'Elisabeth Borne. Trouver un accord de gouvernement. Aujourd'hui, elle consultait les chefs de groupe de la majorité, et puis les premières mesures prévues dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Enfin, la déception des amateurs de petites reines, Julien Alaphilippe ne disputera pas le Tour de France à partir de vendredi.
La tendance météo avec Marlène Deray. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Eh bien, la tendance assez bien ensoleillée dans la plupart des régions demain. En revanche, la façade est du pays devra compter avec de nombreux nuages et puis surtout de bonnes averses orageuses à l'est du Rhône. Météo complète à la fin du journal. Europe 1.
C'est l'information de la soirée. Un missile russe a frappé un centre commercial ukrainien.
Oui, à Kremenchuk, dans le centre du pays. Difficile pour l'instant d'établir un bilan précis. Océane Théar, il y a au moins une dizaine de morts selon le gouverneur régional. Et les images sont impressionnantes.
Oui, on y voit ce bâtiment dévoré par les flammes, plongé dans une épaisse fumée noire. Des pompiers qui s'activent et un nombre exact de victimes qui reste encore inconnu. On a donc un bilan provisoire qui est pour l'instant de 10 morts et plus de 40 blessés. Dans cette ville industrielle du centre du pays, peu habituée aux attaques, ce centre commercial était très fréquenté d'après les autorités ukrainiennes. Des hommes, des femmes, des familles venues faire leurs courses en ce début de semaine. Plus de 1000 civils étaient présents, annonce Volodymyr Zelensky dans une publication Facebook. Et le nombre de victimes est impossible à imaginer, poursuit le président ukrainien. Une attaque en pleine réunion du G7 dans les Alpes bavaroises, où Volodymyr Zelensky s'est justement exprimé ce matin. Il a exhorté exhorter les chefs d'État et de gouvernement à agir, à redoubler d'efforts pour mettre un terme à la guerre qui sévit dans son pays depuis maintenant 4 mois.
Et les pays du G7 se sont, eux, engagés à soutenir Kiev militairement et financièrement aussi longtemps qu'il le faudra, mais aussi à étendre encore les sanctions contre la Russie.
Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, phrase prononcée par l'un des principaux accusés au procès des attentats du 13 novembre.
Oui, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts ce jour de 2015, il a été le dernier à prendre la parole aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, où une audience à laquelle vous assistiez, Gladys Laffitte, la dernière avant le verdict. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des liens forts se sont tissés entre certains accusés et les familles de victimes, ce qui a rendu cette audience très forte en émotion.
Oui, d'abord pour les parties civiles venues très nombreuses. La salle retenait son souffle avant chaque prise de parole des accusés. Certains, notamment ceux qui comparaissent libres, étaient très émus. Ils pourraient retourner en prison et ont exprimé leur peur. Mais ils ont aussi longuement remercié les victimes. Elles m'ont beaucoup soutenue, celles qui viennent nous voir chaque jour le matin avant de rentrer à l'audience, a soufflé l'un de ces accusés fébriles. Des remerciements et des excuses qui ont touché Philippe Duperron. Il a perdu son fils au Bataclan et préside l'association de victimes 13-11-15. Fraternité et vérité.
Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans leurs propos. Les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact. Je ne suspecte pas l'insincérité pour la totalité de ceux qui l'ont exprimé.
Même Salah Abdeslam, qui s'est exprimé en dernier, il a tenu à expliquer qu'il avait évolué au fil de l'audience et que ses excuses étaient sincères. Et puis l'accusé, qui risque la prison à perpétuité incompressible, a prévenu la cour. « J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, mais je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. » Verdict mercredi soir donc.
Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale.
Le pouvoir d'achat préoccupation numéro un des Français. En attendant le projet du gouvernement, les chauffeurs routiers sont déjà en grève ce lundi.
Oui, pour demander de meilleurs salaires. Des barrages filtrants ont été organisés à l'entrée de plusieurs zones industrielles. Barrages qui, un peu partout en France, n'ont pas entraîné de perturbations majeures. Dans le Loiret, les Bouches-du-Rhône, en Meurthe-et-Moselle, dans le Pas-de-Calais ou encore en Seine-et-Marne, à Moissy-Cramayel. C'est là que Guillaume Dominguez a rencontré plusieurs de ces routiers en colère.
C'est devant les grilles d'entrée du parc industriel de Chanteloup que les syndicats ont dressé leur stand et barré la route pour empêcher les poids lourds d'aller et venir. Drapeau à la main et casquette aux couleurs du syndicat, Alain participe à sa première grève en 24 ans de métier. Ce routier de 52 ans gagne 1600 euros par mois, un salaire devenu trop faible face à la hausse des prix.
Tout augmente, sauf les salaires. Donc à la fin du mois, on n'y arrive plus. Tout le monde le voit, vous faites le plein, c'est minimum 100 euros. Et alors qu'avant, on faisait 80 ou 70 euros, ça passait. Bah, c'est 30 euros de plus, c'est énorme. Je ne demande pas en mettre des 100 et des 1000 de côté, mais au moins qu'on y arrive quoi, à la fin du mois. Pouvoir nourrir, chauffer ma famille, loger ma famille, c'est tout ce que je demande.
Un sentiment que partage Mohamed. Lui est transporteur de déchets. Il réclame 500 euros pour pouvoir vivre correctement, mais aussi et surtout de meilleures conditions de travail.
On est au bout du rouleau. Je me lève le matin à 4h du matin jusqu'à 18h le soir pour 1600 balles. Non, et on risque la vie des gens, on risque nos vies, le permis, on risque tout ce qui en suit derrière. On ne peut pas continuer comme ça.
Et les syndicats préviennent que les manifestations d'aujourd'hui ne sont qu'un coup de semonce. Ils durciront le mouvement s'ils ne sont pas entendus. Moissy-Cramayel, Guillaume Dominguez, Europe 1.
Le pouvoir d'achat, justement, on en sait plus désormais sur le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain, Hélène.
Et au menu, Carole Ferry, une augmentation de la plupart des prestations sociales.
Oui, alors officiellement, ces minima sociaux seront revalorisés le 1er juillet, mais il faudra d'abord que la loi soit votée pour que cela puisse s'appliquer. Le texte prévoit donc une hausse de 4% des pensions de retraite, des allocations familiales, du RSA, des allocations de Pôle emploi ou encore de la prime d'activité. Le texte prévoit également un bouclier logement. Alors, il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera tout de même plafonné à 3,5% pendant un an. Une décision validée cet après-midi par le Conseil national de l'habitat. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% au 1er juillet.
Alors Carole, on parle de plusieurs augmentations pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lancé cet avertissement ce matin.
Tout n'est pas possible, tout simplement parce que nous avons atteint la cote d'alerte
sur les finances publiques.
Alors, la cote d'alerte atteinte, qu'est-ce que veut dire le ministre ?
Eh bien, ça veut dire que nos finances publiques sont aujourd'hui dans une situation beaucoup plus délicate, puisque les conditions de financement ne sont plus les mêmes. Au moment du quoi qu'il en coûte, la France empruntait à des taux négatifs, voire nuls, mais aujourd'hui, on emprunte à 2%. Il devient donc beaucoup plus coûteux de s'endetter. Difficile donc d'accepter toutes les mesures proposées par l'opposition. Bruno Le Maire demande en revanche un effort supplémentaire à Total Énergie. Le pétrolier a d'ores et déjà annoncé qu'il maintiendrait sa réduction de 10 centimes sur les carburants en milieu rural et sur les autoroutes jusqu'à la fin de l'été.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.
Et pour faire voter son projet de loi sur le pouvoir d'achat et tous les autres, Elisabeth Borne est plus que jamais à la recherche d'une majorité élargie.
Toute cette semaine, Emmanuel Macron l'a chargée de trouver un accord de gouvernement. Elle consulte donc les différents chefs de groupe parlementaires. Jacques Serret, aujourd'hui, ceux de la majorité.
Oui, et dans l'ordre, Renaissance, le Modem et Horizon, voilà les trois groupes reçus aujourd'hui par Elisabeth Borne à Matignon. Trois groupes alliés qui composent la majorité relative d'Emmanuel Macron, désormais prêts à faire certaines concessions ou compromis avec les groupes d'opposition, comme le justifie Aurore Berger, celle qui a succédé à Christophe Castaner à la présidence du groupe Renaissance, ex-LREM à l'Assemblée.
Je crois qu'il y a un moment de vérité actuellement qu'il est valable pour la majorité et pour les oppositions. Si on donne le sentiment que dans quelques semaines, on n'aboutit pas, alors on sera tous renvoyés justement à nos responsabilités et on sera tous perdants, et les Français d'abord. Et notre enjeu, c'est vraiment que les choses aboutissent, aboutissent vite, d'où encore une fois cette main tendue et cette concertation qui est engagée avec l'ensemble des groupes parlementaires et pas uniquement les groupes de la majorité.
Les présidents des groupes d'opposition seront reçus demain et après-demain par Elisabeth Borne. Il s'agit de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, glisse un conseiller, recueillir leur position pour savoir s'il y a des points de convergence. Sans trop d'illusions tout de même, l'exercice a au moins l'avantage pour la Première ministre de montrer un certain volontarisme pour envoyer la balle à ces mêmes oppositions en cas d'échec.
Les remous au sein du gouvernement autour de Damien Abad, une élue centriste, porte plainte pour tentative de viol, la troisième. Les deux autres ont été classés sans suite. Le ministre des Solidarités conteste ces accusations avec la plus grande fermeté. Ses avocats vont déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. Et puis, notez aussi que la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, demande ce soir aux Français de remettre le masque dans les transports en raison de la recrudescence du Covid. Mais pour l'instant, pas d'obligation.
Une petite pause, Hélène, et puis nous partirons à Strasbourg au procès de Jean-Marc Reiser. Audience difficile pour les proches de la victime Sophie Le Tan. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, Jean-Marc Reiser devant les assises du Bas-Rhin.
Oui, cet homme de 61 ans est l'assassin présumé de la jeune Sophie Le Tan en 2018 près de Strasbourg. Des faits qu'il a reconnus tout en niant toute préméditation. Cette première journée, Mélina Fachin, a été très éprouvante pour la famille de la victime.
Oui, c'est une épreuve terrible, notamment pour la mère de Sophie Le Tan. Au bout de quelques minutes à peine, alors que le procès n'a pas encore réellement commencé, elle s'effondre, fait un malaise en pleine salle d'audience, comme le raconte Laurent, le cousin de Sophie.
Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au procès. Et je dois vous avouer que même moi, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi, c'est très dur.
En particulier lorsque le président de la Cour rappelle les faits les plus sordides de cette affaire. Comment Sophie Le Tan est morte sous les coups nombreux et violents de Jean-Marc Reiser. Comment il lui a fracturé le nez. La façon dont il a démembré son corps avant d'en jeter les morceaux dans des sacs poubelles pour les enterrer en forêt. Pendant ce temps, l'accusé lui reste calme dans son box, la tête et les yeux baissés, sans quasiment jamais regarder la famille Le Tan. Le seul moment où Jean-Marc Reiser réagit, c'est lorsque la Cour évoque l'idée d'un piège qu'il aurait tendu à la jeune femme. Il secoue lentement la tête en signe de dénégation. « Non, répète-t-il, je conteste toujours la préméditation. » Poursuivi pour assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Mélina Fachin en direct des Assises de Strasbourg pour Europe 1. Et puis le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour des négligences fautives dans le dossier du chlordécone, ce pesticide interdit en France en 90, mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes des Antilles jusqu'en 93. En revanche, le tribunal rejette les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété.
Des nouvelles du Tour de France maintenant, Hélène. Julien Alaphilippe ne prendra pas le départ vendredi au Danemark.
Oui, le double champion du monde français n'a pas été retenu par Quick-Step, son équipe belge. Il n'est pas suffisamment en forme après sa lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège il y a 2 mois. C'est une vraie déception pour tous les fans de cyclisme, Jean-François Pérez.
Et oui, Alaphilippe, c'est le chouchou du Tour de France. Un coureur plein de panache, toujours à l'attaque. Il avait effectué une rentrée convaincante ce week-end au championnat de France. Il disait se sentir mieux qu'il ne pensait. Son maillot arc-en-ciel était l'un des plus attendus vendredi à Copenhague. Mais la raison a prévalu. Le Tour, c'est long, 3 semaines, avec des étapes parfois très dures en montagne. Notre consultant Richard Virenque comprend la décision de l'équipe belge, mais il la regrette.
Quelle déception que Lyon doit avoir, quelle déception que les Français vont avoir. Il va regarder le Tour de l'autre côté et on aurait tellement aimé le voir sur la course. Et j'étais persuadé qu'il aurait pu faire quelque chose la dernière semaine du Tour. C'est la raison qu'il a emporté.
Cette absence n'est qu'un épisode de plus dans la difficile saison que traverse Alaphilippe. Une seule victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque. Pour le reste, des performances plutôt décevantes, des pépins physiques et des chutes. À 30 ans, le Berrichon va désormais se concentrer sur les objectifs de fin d'année, la Vuelta et surtout les Mondiaux pour une 3e couronne consécutive. Quant au Tour, le public français pourrait reporter son affection sur Thibaut Pinot, en fin de retour et très ambitieux.
Merci Jean-François Pérez. Et puis ça bouge à la tête de l'OGC Nice. Le Suisse Lucien Favre est nommé entraîneur, poste qu'il a déjà occupé entre 2016 et 2018. Il remplace Christophe Galtier en discussion avancée avec le PSG.
La météo, Marlène Duret. Demain donc, ce sera généralement ensoleillé, sauf à l'est.
Oui, Laurence, pas mal de nuages sur la façade est. Demain en journée, des précipitations sous forme d'averses, parfois orageuses, que l'on va retrouver de la Corse à la Provence, aux Alpes et à la Franche-Comté. Ces averses vont s'intensifier en cours de matinée à l'est du Rhône. Et puis, elles seront carrément l'après-midi peu mobiles. Ça va favoriser des cumuls d'eau potentiellement marqués. Il faudra peut-être même surveiller les Alpes-Maritimes. Ailleurs, donc, sec, bien ensoleillé, avec même une belle amélioration dans le sud-ouest par rapport à aujourd'hui. Et puis, un ciel peut-être un petit peu plus variable, avec quand même de belles éclaircies. Des Hauts-de-France à un petit quart nord-ouest et les averses en Corse qui vont devenir moins fréquentes au fil des heures. En soirée, nouvelle perturbation pluvieuse qui va arriver par la pointe bretonne. Elle va gagner toute la Bretagne en cours de nuit, puis elle va traverser le pays mercredi et jeudi. Il a fait bien chaud aujourd'hui entre les Bouches-du-Rhône et l'île de Beauté. La barre des 35 degrés a été dépassée, notamment en Corse et en Provence. Et bien demain, ça baisse, comptez 28 à 31 autour de la Grande Bleue. Ailleurs, les températures maximales seront généralement comprises entre 24 et 27 degrés, un petit peu moins sous les nuages dans l'ouest, avec 19 à 23, 21 à Nantes par exemple.
Merci beaucoup Marlène Duret, merci Hélène Zelani. Dans un instant, les débats de Punchline. On reviendra sur la mission peut-être impossible pour Elisabeth Borne de former un gouvernement avec un équilibre, comme lui a demandé le président Macron. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec François Pupponi. Bonsoir François.
Bonsoir.
Pupponi, ancien parlementaire et très impliqué dans la vie politique. Amine El Khatmi, essayiste, bonsoir. Et Alexandre Chauffaud du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alex.
Bonsoir Laurence.
La première ministre Elisabeth Borne continue donc à chercher la bonne équation pour former un gouvernement, comme le lui a demandé Emmanuel Macron. Comment peut-elle réunir un gouvernement d'union ? Très compliqué, visiblement. Elle consulte à tour de bras aujourd'hui et demain. On va écouter Fabien Roussel, qui était mon invité ce matin sur CNews, et qu'il est pour lui pas question d'entrer dans le gouvernement. Écoutez-le.
Nous ne participerons pas, nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant d'aller mettre en place l'impôt sur la fortune, en refusant d'augmenter les salaires et les retraites. En revanche, nous ferons tout pour faire en sorte qu'il y ait des mesures prises tout de suite pour le pouvoir d'achat des Français.
Voilà pour Fabien Roussel. Alexandre Chauffaut, c'est mission impossible pour Elisabeth Borne ou pas ? Parce que là, tout le monde dit non, a priori. Hein.
Oui, en tout cas, c'est très compliqué. Je note que Fabien Roussel s'était déjà précédemment positionné en faveur d'une entrée au gouvernement. Parfois, on ne sait pas trop avec Fabien Roussel.
Là, c'est la version de ce matin. Donc, c'est la dernière.
Non, ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que les trois principaux groupes d'opposition, la NUP, le Rassemblement National et LR, se sont clairement positionnés en tant qu'opposition frontale à Emmanuel Macron. Après, la mission principale d'Elisabeth Borne, outre le remaniement qui doit arriver d'ici la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, c'est de trouver effectivement 40 à 45 députés susceptibles de voter, un, la confiance à Elisabeth Borne, et deux, d'appliquer la politique du gouvernement. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des députés divers gauches, il y a visiblement la création d'un parti qui va s'appeler Utile, avec des députés d'outre-mer, de Corse. Il y a peut-être...
Utile.
C'est sympa pour les autres.
Ah, c'est ça, il y a les utiles et les inutiles.
Peut-être quelques députés chez LR, mais vraiment une minorité. Et c'est tout l'objet de sa mission de cette semaine, c'est de consulter les chefs de groupe et d'essayer de trouver 40 à 45 députés qui
pourront voter ces textes, voilà.
Participer à faire partie d'une majorité et obtenir une majorité absolue.
François Pupponi, c'est jouable ou pas, cette histoire de Utile ?
Très compliqué pour trois raisons. La première, il faut être capable d'avoir des dialogues avec une cinquantaine de députés. Mais ces députés, ils vont, entre guillemets, négocier leur soutien permanent ou temporaire. Par exemple, le groupe Utile, pour bien connaître, je l'ai dit tout à l'heure, les députés corses, ils ne viendront participer à une grande majorité de l'Union nationale que s'ils ont des garanties sur l'autonomie et leur sujet de prédilection. Bon. Donc il faut négocier avec chacun le fait qu'ils rejoignent ou pas temporairement ou d'une manière globale la majorité. Et puis après, il faut être capable d'être dans l'hémicycle tout le temps. Parce que des gens disent « Ok, on vous rejoint ». Mais pour avoir vécu ça dans un autre temps, vous aurez 50 députés de la République, Rassemblement national, 50 députés de la NUP et une vingtaine de les Républicains. 120 en permanence, jour et nuit. Et puis ils vont taper. Et donc c'est-à-dire que la majorité, il faut qu'ils soient 130, 140
en permanence.
Oui. C'est impossible. Enfin, c'est quasiment. Enfin, il faut que personne n'aille aux toilettes, personne n'aille à la buvette. Enfin, moi, j'ai vécu des moments où on empêchait les députés de sortir. Parce qu'à une voix près, c'est pas majoritaire. Donc ça va être un champ de bataille permanent. Et donc, à la fois, il faut débaucher une cinquantaine de députés, il faut les négocier, c'est compliqué. Et ensuite, il faut négocier amendement par amendement, texte par texte, et être présent dans l'hémicycle pour que ça passe.
Donc c'est mission impossible.
Pour moi, c'est mission quasiment impossible. Quasiment impossible. Y compris physiquement, il faut tenir. Hein. 120 de la majorité, c'est-à-dire que la moitié du groupe de la majorité qui doit être là en permanence.
Aminat bon Katmi, comment ça va se résoudre, cette crise-là? Non, mais quelle est la solution ou elle est la voie de sortie?
La solution, parce que François, qui est un fin connaisseur de l'Assemblée nationale, le sait bien. Quand on a vu ce qu'ont pu faire 17 députés insoumis, comme brouhaha, comme obstruction, comme bruit médiatique, et parfois juste titre, ils avaient des interventions qui parfois étaient pertinentes. On se souvient des sorties de François Ruffin sur les conditions de travail des agents d'entretien de l'Assemblée nationale. On se souvient, bref, quand on voit ce dont ils ont été capables à 17, on imagine ça multiplié par 3, par 4, avec les homologues de l'autre côté qui étaient 8 et qui passent à 89 et qui, n'en doutons pas, le Rassemblement national, sauront faire preuve d'autant de talent et d'imagination en matière pour se faire entendre. Et effectivement, face à ça, il faut une majorité solide. Et quand François dit faut pas sortir, bien sûr, faut pas qu'il sorte de l'hémicycle, mais faut pas qu'il y ait d'état d'âme, faut pas qu'il y ait de frondeur, faut pas qu'il y en ait quelques-uns qui se réveillent en cours de quinquennat et qui disent « Ah ben ça, c'est pas assez à gauche, nous on veut que ça pense à gauche », ou qu'en face, il y en ait qui disent « Nous, on trouve que ça va pas assez à droite, il faut que ça aille plus à droite ». Et donc, tenir tout ça pendant 5 ans, sans qu'il y ait de défection, sans qu'il y ait d'état d'âme, sans qu'il y ait de perte, avec les 50 en plus ou les 40 en plus qu'il faudra cajoler, ça va être la grande braderie, parce que...
ça peut être aussi la brasserie.
François dit les Corses, mais vous avez les ultramarins qui ont tant d'intérêt à défendre. Et puis chacun a sa circonscription, son hôpital, sa fac, ses écoles, ses routes qu'il va vouloir aller défendre pour les intérêts de ses électeurs. Et puis, cela, pendant 5 ans, objectivement, c'est je ne vois pas comment ça tient.
Il y a un autre sujet. Beaucoup ont été élus sur tout sauf Macron.
Oui.
Donc le risque, c'est qu'il y ait une dissolution. Donc ils se disent, quel intérêt pour moi de rejoindre cette majorité s'il y a une dissolution dans un an ou deux, et donc que j'ai rejoint la majorité Macron et que les gens ne veulent toujours pas de Macron. Donc les gens vont rester aux abris en disant « je ne prends pas le risque, j'ai été élu sur tout sauf Macron, donc je ne reste pas avec Macron, je peux l'aider ponctuellement, mais en tout cas, je ne prends pas de risque ».
Alexandre Chevaux.
On a le sentiment qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, en cherchant absolument à avoir la majorité absolue, ils veulent quelque part contourner et ne pas voir le résultat des élections législatives. Il y a une majorité relative. On se demande pourquoi ils n'acceptent pas la culture du compromis et sur plusieurs séries de réformes, par exemple, je prends la réforme des retraites, la majorité plus LR, c'était dans le programme de Valérie Pécresse, une des premières mesures, la retraite à 65 ans. Pourquoi ils ne vont pas chercher le compromis avec LR sur cette question? Pourquoi sur la question du pouvoir d'achat, ils ne vont pas chercher le compromis avec la NUP et le RN, qui ont aussi des propositions sur ce sujet-là? en allant chercher la majorité absolue contre le résultat du scrutin.
Et oui, mais une des raisons, c'est qu'effectivement, allez, sur les retraites ou sur le pouvoir d'achat, ils se mettent. Mais les Républicains vont dire nous, on est prêts à faire les efforts, mais il faut des mesures budgétaires qui ne mettent pas en péril le budget de l'État. La NUP va vous déposer des amendements en mettant le SMIC à 2 000 euros, la retraite à 5 000. Donc il n'y a pas de compromis possible dans tout ça. Alors il faut négocier pendant des jours et des jours d'arriver à un compromis, ce qui est quasiment impossible. Et le problème, c'est que si vous votez avec la droite, les autres vous font une bataille parlementaire insupportable. C'est des dizaines de milliers d'amendements. Et à un moment, ça bloque. Donc vous pouvez faire une fois
23 000, je crois, rien que sur les retraites pour la France Insoumise.
Et donc il faut être là tout le temps, c'est ouvert le week-end. Et donc physiquement, ça ne tient pas. Bon. Et donc c'est quasiment impossible. Alors après, on peut imaginer...
Il y a un outil qui permet de tenir François, qui a utilisé Rocard de manière...
Maintenant, c'est une fois par an.
49-3.
Et donc ils vont garder le 49-3 pour le budget.
Pour le budget,
oui. D'accord, mais c'est le budget. Mais ça veut dire que le texte sur le pouvoir d'achat... Oui. Bon, le texte sur la retraite avant la fin de l'année est quasiment impossible. Et donc le gouvernement se dit, je vais peut-être pouvoir voter mon budget avec le 49-3. Mmh. Le reste, je dois tout négocier tout le temps avec des gens qui vont de toutes les manières tout faire pour les faire tomber. Bon, donc et puis il faut du monde. Enfin, là, je répète, il faut du monde derrière.
Présence physique,
c'est capable de faire ça. Et c'est très très compliqué. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Hein. Et donc, je ne vois pas comment ils font.
On imagine un auditeur allemand qui écoute Europe 1 et qui parle français, ou un auditeur d'un pays européen, italien, il se dit, mais ces gens sont fous. Ces gens qui sont en train de débattre sur Europe 1 et qui disent ouvertement, c'est impossible, ça ne tiendra pas. Dans des pays où, par définition, on a la culture de la coalition, la culture de du dialogue. En France, on ne l'a pas.
Cette culture. On a
une majorité qui impose tout, une majorité à laquelle elle-même l'exécutif impose des choses, parce qu'on tient les députés, et c'est pour ça qu'on parle de député Godillot d'ailleurs, on tient les députés parce qu'un tel qu'on menace de ne pas investir, un tel qu'on menace de... Bon, on a plein de menaces qu'on peut mettre en route, et c'est vrai qu'on est en train de découvrir un peu ébahi qu'on pourrait dialoguer. Voilà, et qu'on pourrait négocier, ce qui n'est pas dans notre...
Mais il faut des gens qui acceptent de dialoguer.
Ben oui,
alors justement, on y revient dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On se posera la question de ce gouvernement fantôme que recherche Elisabeth Borne, de cette majorité introuvable. Et puis aussi la question de Damien Abad, le ministre qui est visé par une plainte pour tentative de viol. A tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec François Pupponi, Amine Elkatmi, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Avant de reparler de la situation politique et d'Emmanuel Macron qui est actuellement au G7 mais va devoir se replonger dans les affaires nationales d'ici quelques jours, un mot de cette plainte qui a été déposée contre Damien Abad. Plainte pour tentative de viol, déposée par une élue centriste qui l'accuse donc d'une tentative de viol en 2010. Damien Abad conteste fermement les accusations et il porte plainte pour dénonciation calomnieuse. François Pupponi, est-ce qu'il peut tenir au gouvernement, Damien Abad ?
Malheureusement, je ne crois pas. Ce qui est terrible, parce qu'il n'y a plus de présomption d'innocence. Et je pense qu'effectivement, l'opposition a déjà dit que dans l'hémicycle, il rendrait la vie impossible. Donc il y aura des questions qui lui seront posées aux questions du gouvernement, il ne pourra pas répondre. S'il y a un texte dont il a la charge, il ne pourra pas le défendre. Donc je pense qu'il sera dans l'incapacité à un moment de... Et de toute façon, s'il veut se défendre lui-même, le mieux c'est parfois de démissionner pour pouvoir retrouver son honneur. Mais je pense que ça va être insupportable pour lui. De toute façon, il ne pourra pas tenir à terme. Malheureusement, je répète, il est présumé innocent, il y a des plaintes qui arrivent les unes après les autres, et cette répétition fait qu'à un moment, il sera malheureusement, j'ai bien peur, obligé de démissionner. Ou alors il ne sera pas reconduit dans le nouveau gouvernement.
Absolument, quand il y aura un remaniement. Alexandre Chauveau ?
On lit que Elisabeth Borne le qualifie en privé de boulet. Je serais tenté de dire que pendant le premier quinquennat, Emmanuel Macron aurait détesté céder à la pression populaire, médiatique, sur Damien Abad. Mais que vu l'état actuel des choses, et sachant qu'il y a un remaniement qui doit advenir dès la semaine prochaine, ce serait l'occasion idéale pour s'en séparer. C'est vrai que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est par François Pupponi, il n'y a plus de présomption d'innocence. Et en même temps, on voit mal comment il pourrait continuer à l'Assemblée à tenir son rang de ministre.
Oui, les Insoumis, Amine El-Khatmi, lui ont promis... le bruit et la fureur dès qu'il ouvrira la bouche.
Moi, je ne veux pas vivre dans une démocratie où l'on cède aux menaces de Mme Rousseau, qui promet à un homme qui n'a été condamné par personne, si ce n'est par d'apprentis procureurs sur Twitter,
qu'on va lui pourrir la vie. Voilà. Moi, je reste encore attaché à quelques principes. Et la multiplication des accusations ne fait pas encore condamnation. On peut considérer que ça fait un faisceau d'indices, que ça installe un climat, mais ça ne fait pas une condamnation. Et donc, je pense que tant qu'il n'est pas condamné, il n'a pas à partir. Et en même temps, j'entends François, la politique n'est pas un tribunal. Et parfois, en politique, le climat devient tellement lourd et le boulet tellement dur à traîner qu'on est obligé de céder. Donc, on verra bien.
Pourtant, Emmanuel Macron avait fait des législatives, le juge de paix.
Il avait renvoyé la balle aux électeurs en disant « c'est à vous de décider ». Ben non, en fait.
Réélu pour la deuxième fois, donc élu pour la troisième fois dans l'Ain.
Affaire à suivre, évidemment, ouais. Puisque la justice va avancer.
Oui, ça va avancer. Alors, après, c'est toujours compliqué parce que ça va avancer. Il y a une plainte. S'il est convoqué, s'il est entendu par la justice, ça va en rajouter au climat un peu délétère. Et même pour lui, pour pouvoir se défendre, je pense qu'il a peut-être intérêt à se mettre un peu de côté, essayer d'apporter toutes les preuves pour montrer son innocence et puis éventuellement revenir. Mais il y a un moment où voilà, la répétition fait que. Et puis on voit bien qu'Elisabeth Borne ne le soutient pas vraiment. Enfin, en tout cas, elle n'a jamais pris de parole très forte pour le soutenir.
Bien sûr.
Sur la répétition, et j'entends cet argument, mais comme ce n'est pas la première fois qu'il est invoqué, il y a déjà eu des affaires dans ce pays où, au moment où les affaires étaient traitées sur le plan médiatique, il y avait répétition et multiplication des accusations. Et je pense à une affaire en particulier, l'affaire Baudis, où on avait sur les épaules d'un homme, si on s'en était tenu à ce qui était écrit dans les journaux de l'époque et à ce qui se disait dans les discussions de l'époque, cet homme était condamné à perpétuité. Et si M. Baudis avait été ministre, secrétaire d'État, etc., j'imagine que traitant cette affaire à l'aune de ce que l'on fait aujourd'hui, on aurait dit qu'il ne peut pas tenir. Et donc, j'en appelle à chaque fois à un minimum de prudence, parce qu'on peut aussi, et sans comparer les deux, évidemment, je ne dis pas que Damien Abad et l'affaire Baudis, c'est la même chose.
Puisque Dominique Baudis a été complètement blanchi de toutes les
voilà, c'est ça. Mais je dis, faisons attention à ne pas considérer que, oui, deux ou trois accusations répétant les mêmes faits font office de condamnation.
Oui, mais le problème, c'est qu'on a des députés de la NUP en particulier qui veulent du sang.
C'est ça le problème.
Et donc, la présomption d'innocence, ce n'est pas pour eux. Voilà. Ils veulent faire tomber, ils veulent agresser. On le voit bien comment. Et donc, ils sont maintenant très nombreux dans les
jusqu'au jour où ça se retourne contre eux et où ils sont obligés de lâcher l'un de leurs candidats sur Twitter.
Mais ils l'ont fait sans problème. Sans problème. Donc eux, ça ne leur pose aucune difficulté. Ce qui est dramatique pour moi. Et dans le cadre d'un état de droit et d'une république où on doit quand même présumer les gens innocents, ça n'a plus de sens de faire ça. Mais eux, ils le font, mais sans aucun état d'âme.
Ça veut dire que ça va être quand même extrêmement rock'n'roll, et l'Assemblée nationale et la formation du nouveau gouvernement la semaine prochaine, François Pupponi.
Le nouveau gouvernement, soit ils arrivent à débaucher 2-3 députés qui ne sont pas de la majorité, on parle de David Habib, on voit des gens qui ont été élus et qui sont capables de venir. Mais il n'y aura pas de très grosses prises. Donc le gouvernement, ça risque de faire un peu flop. Et puis derrière, ça va être le premier texte sur le pouvoir d'achat, où là, ça va être la porte ouverte à tout. Tout le monde dit on va voter ce texte, on est pour le pouvoir d'achat des Français, mais il y aura une surenchère systématique.
Sur
telle ou telle mesure. Donc ça va être difficilement... avec le Bruno Le Maire qui dit ce matin, attention, les comptes sont déjà dans le rouge et on a dépassé la ligne acceptable. Ce qui veut dire, il dit lui, moi, vu de Bercy, on ne peut quasiment rien faire. Les 4% d'augmentation des minima sociaux, mais on ne peut pas faire plus. Et les autres qui disent, on va vous montrer qu'on peut faire plus.
Donc là, le bras de fer est entamé. Dans cette loi sur le pouvoir d'achat, on a quelques informations en plus, Alexandre Chauveau, sur ce qu'elle va contenir, cette loi.
Oui, il y a les 18 centimes sur les litres d'essence qui sont prolongés, donc 18 centimes de remise, le dégel du point d'indice des fonctionnaires.
La hausse des APL de 3,5%.
Exactement.
Le plafonnement des loyers, l'augmentation de 3,5%.
Exactement. Enfin, il y a tout un paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat qui avait été... développé, j'ai plus tout en tête, mais...
La retraite, en fait, c'est tous les minima sociaux, y compris les fameuses APL. Les fameuses APL qui avaient été enlevées de 5 euros, donc symboliquement, on y revient. Mais les oppositions disent, la droite dit, nous, on veut les comptes, donc soit on est capable de le financer et ça va, sinon on ne votera pas. Et toutes les oppositions, Rassemblement National et NUP, disent...
Il faut bloquer les prix,
Ruffin a parlé de... Enfin, je ne sais plus comment il a qualifié tout ça, en disant nous, on veut aller plus loin et on ira plus loin. Quoi.
Il y a le chèque, pour les gros rouleurs aussi, mais c'est aussi, sur ce qui vient d'être dit, la droite, enfin, en tout cas les Républicains, eux, ils s'opposent à cette politique de chèque. Eux, ils veulent redonner du pouvoir d'achat par le travail. Et donc, ils vont faire toute une série de propositions là-dessus, mais qui s'opposent à la politique du chèque.
Donc, concrètement, elle ne va pas être votée, cette loi sur le pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, si on met les choses bout à bout, l'ANUPS, si
le elle sera votée, a priori, avec la droite.
Oui.
D'accord.
Mais dans des mesures qui...
Mais en rajoutant quelques trucs, alors.
On va un peu rajouter, en tenant les comptes. Donc, on va satisfaire un peu la droite pour voter le texte, parce que les mesures proposées par l'Assemblée nationale et par l'ANUP seront impossibles à financer. Et donc, on va voter avec la droite, et en votant avec la droite, le texte passera, mais ça sera le premier clash. Et je répète, ça sera des dizaines de milliers d'amendements. Et la gauche, comme l'Assemblée nationale, diront voilà, ces gens-là ne vous respectent pas, ils n'ont rien compris, ils ne veulent pas payer, ils payent les patrons. Voilà, il y aura toute la dialectique derrière. Et donc, ça engage encore un bras de fer pour l'automne, où là, ce sera la loi de finances.
La loi de finances. Mais là, il y aura l'idée
de la droite a une carte à jouer. Si il la joue finement et intelligemment, ce qui n'est pas toujours
pas
gagné d'avance. Mais s'il la joue
avec Marleix, ça va être du bon niveau.
Hein. Absolument. Mais face précisément à une opposition de gauche qui va être hystérisée par la France insoumise, ce groupe réduit à une soixantaine des Républicains peut jouer la négociation avec le gouvernement pour obtenir des choses et ensuite dire aux Français « c'est grâce à nous » et pouvoir démontrer que précisément, eux, ils sont des gens sérieux, un parti de gouvernement auquel on peut faire confiance et qui n'utilisent pas la situation pour la pourrir, mais l'utilisent précisément pour avancer ses pions et obtenir des réformes du gouvernement.
Et avec...
François, très rapidement, la seule chose qui peut contrarier ça, c'est qu'il y a un congrès bientôt chez LR et que Laurent Wauquiez est pressenti pour en prendre la tête et que Laurent Wauquiez n'est pas particulièrement connu pour être sur une ligne, disons, constructive.
Et avec une donnée qu'on aura après-demain, avec le vote de la présidence de la Commission des finances.
Ah oui, d'accord. Absolument.
Donc là, qui est en piste pour cette Commission des finances?
A priori, c'est Coquerel et le Rassemblement national.
Coquerel de la France Insoumise.
Qui était membre de la
candidature commune de l'ANUPS.
Tout à fait. Okay. Puisque Valérie Rabault a renoncé à se présenter contre
Coquerel. Il a un peu tordu le bras.
Oui, renoncé.
Beaucoup,
oui.
Un peu beaucoup. Le Rassemblement national, qui présentera quelqu'un. Mm-hmm. La majorité peut-être. Puisque cette fameuse règle de l'opposition, et dans tous les cas, il faut voter dans la commission, et si c'est effectivement un président de la commission des finances, soit Rassemblement national, soit France insoumise, ça va être insupportable, parce que le président de la commission, il a quand même des pouvoirs, il peut déposer des amendements plus facilement, il prend la parole, il dirige les débats, donc ça sera aussi dans ce cadre-là que ça se jouera.
Alors si on fait les comptes, là, parce que vous connaissez parfaitement le fonctionnement de l'Assemblée, qui va être élu?
Si à un moment on dit il faut que ça soit le groupe d'opposition, ça veut dire que la majorité et les LR votent pour le Rassemblement national. Mm-hmm. Ils appliquent la règle en disant le peuple a voté et donc on le respecte. Ben, s'ils ne votent pas pour le Rassemblement national, ça va être un peu ouvert à tout le monde et là c'est au petit bonheur la chance. D'accord. Et c'est en fonction de qui votera, en fonction de ceux qui acceptent ou pas.
Je croyais que la majorité ne votait pas dans ce...
Non, la majorité traditionnellement c'est...
Traditionnellement, mais là on n'est plus dans la tradition. Là le problème c'est que si elle ne vote pas...
Oui, elle fait...
En fait, c'est les Républicains et le Rassemblement national qui voteront pour l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas ce qu'a dit Larcher en disant il faut que ça soit quelqu'un de l'Assemblée nationale. Donc si la majorité ne vote pas, effectivement, elle laisse le Rassemblement national, de fait.
Alexandre Chevaux,
On lit ce matin, et ça a été confirmé par plusieurs sources, qu'il y aurait une sorte d'accord entre les Républicains et le Rassemblement national pour que Éric Ciotti puisse conserver son poste de questeur à l'Assemblée, en échange de quoi les LR voteraient pour Jean-Philippe Tanguy, le candidat du Rassemblement national, à la Commission des finances. Le vote pour la Commission des finances, c'est un vote à scrutin fermé. S'il y a plus de 90 voix pour le candidat du RN, on saura que les voix supplémentaires sont venues des Républicains. Auquel cas, ça poserait une vraie question, parce que il y a quelques mois encore, Xavier Bertrand, par exemple, qui a plusieurs députés qui connaît très bien à l'Assemblée, disait je préfère voter pour un communiste plutôt que pour un identitaire.
Oui, mais Éric Coquerel n'est pas communiste.
Oui.
C'est peut-être là la petite... Pardon, je vous ai interdit.
Non, mais ça crée une ligne de fracture chez les Républicains.
Petite pause, on continue à évoquer cette présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans un instant, dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Dans Punchline, on se retrouve avec François Pupponi, Alexandre Chevaud d'Europe 1, Amine El-Khatmi, essayiste. François Pupponi, on évoquait la présidence de la Commission des finances, poste stratégique, parce que celui qui la préside peut avoir accès aux dossiers fiscaux, on le rappelle, voilà, c'est important. Donc, a priori, on s'acheminerait plus vers un accord LR-RN pour que ce soit un RN, premier parti d'opposition, qui en est la présidence.
Si effectivement on applique une règle non écrite, mais qui est actée maintenant depuis des années, c'est-à-dire que le groupe majoritaire ne participe pas et laisse le premier groupe d'opposition avoir le poste. On voit bien les LR voter avec le Rassemblement National. D'ailleurs, le président Larcher l'a dit en disant c'est normal que ça soit le Rassemblement National avec une abstention du groupe majoritaire. Bon, ce qui va faire crier les oppositions de gauche en disant voilà, vous êtes complices et vous avez accepté. Mais c'est l'application d'une règle non écrite que tout le monde a respectée jusqu'à présent. Et on ne peut pas dire à la fois on applique cette règle sauf quand les gens ne nous plaisent pas. Oui, que quelqu'un de l'opposition soit à la Commission des finances, ça fait partie de toutes les grandes démocraties. La France y est venue tardivement, mais toutes les grandes démocraties, c'est le cas. Sous Nicolas Sarkozy. Voilà, donc c'est la règle, il faut l'accepter comme telle. Mais concrètement, ça veut dire que soit la majorité ne participe pas, soit elle vote, ce que je ne crois pas d'aller voter carrément pour le Rassemblement national, mais on laisse faire. Et en laissant faire, c'est les Républicains qui, en fait, ont la clé de l'élection entre les mains.
Alexandre Chevaud.
Si c'était Jean-Philippe Tanguy, donc le candidat du Rassemblement national, ancien membre de Debout la France chez Nicolas Dupont-Aignan, ce serait vraiment une très grande victoire pour Marine Le Pen. Elle a deux objectifs, c'est d'obtenir un poste de vice-président à l'Assemblée, il y en a six, et un poste
qu'elle aura,
la présidence de la Commission des Finances. Puisqu'on l'a dit, c'est traditionnellement, ça revient traditionnellement à un parti d'opposition, ça installerait définitivement le RN comme le premier parti d'opposition. Elle reprendrait un petit peu la main à Jean-Luc Mélenchon qui avait repris ce flambeau-là après l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, elle fait tout pour... elle agit, je parle sous le contrôle de François Pupponi, elle agit en sous-main, elle appelle beaucoup de députés LR, elle est assez appréciée en tant que femme à l'Assemblée, et elle appelle beaucoup de députés LR pour faire campagne pour Jean-Philippe Tanguy.
D'accord. Ah oui, elle est active, proactive. Elle appelle les députés LR.
Et sur la vice-présidence, c'est pas neutre, parce que c'est pas que du symbole. C'est-à-dire que les vice-présidents, c'est eux qui, en fait, dirigent les séances. Parce que le président de l'Assemblée nationale, lui, n'est présent que le mardi pour les questions d'actualité et éventuellement sur quelques textes un peu importants de temps en temps. Mais le reste du temps, ce sont les vice-présidents qui font fonctionner l'hémicycle. Et sincèrement, avoir des vice-présidents Rassemblement National ou la NUP sur certains textes,
ça change la donne ?
Complètement. Le vice-président, il fait ce qu'il veut. Sur les votes, pas sur les votes. Moi, j'ai assisté à des moments...
Le moment du vote...
En fait, le vice-président, quand les votes à main levée, c'est lui qui compte. Et je peux vous dire que de temps en temps, il a des problèmes de...
Il a
parfois,
c'est à la louche. Quand même.
Plus qu'à la louche. Bon. Et donc, il fait ce qu'il veut. Et quand le président a dit...
Qu'il n'y ait pas la VAR, en fait.
Quand il dit amendement adopté ou rejeté, on ne peut pas le contester.
D'accord.
C'est incontestable. Le président décide, et une fois qu'il a décidé, on accepte. Et donc, il y aura des situations qui seront homériques, parce que soit on laisse parler le temps. Enfin, le président, qui préside la séance, peut dire « je laisse dérouler le débat ». Et donc, ça prend des heures et des heures. On laisse parler les gens pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Alors,
donc,
la tradition, quand même, c'est que le vice-président, quel que soit son camp, essaie quand même... Non, mais je me souviens de séances, par exemple, présidées par Annie Genevard, où elle essayait quand même, qui venait de LR, où elle recadrait parfois, y compris des députés de son groupe d'origine. Il y a d'autres exemples. En général,
bien sûr. Non, mais généralement,
la règle, c'est quand même que le vice-président.
Voilà. Non, mais ça, c'est la règle. Mais après,
dans la pratique.
Moi, j'adorais Anne Genevard, c'est une femme de grande qualité. Oui. Mais sa technique, c'était aussi de laisser parler les gens de son camp. Alors, de temps en temps, elle les recadrait pour faire dire aux autres, voilà, je m'en occupe un peu. Mais sur des débats, il y a beaucoup d'amendements. Oui. Ça prend des heures et des heures. Ou alors, sinon, la règle, c'est un pour, un contre. Oui. Mais ça, c'est quand on a une opposition et une majorité relativement claire. Mais quand il y a autant de groupes, quand on dit un pour, un contre, si les contre, c'est les Républicains, le Rassemblement National et la NUP, il faut bien donner la parole aux trois. Ça sera trois contre, sauf que la règle, c'est un pour, un contre. Ouais. Et donc, tout le monde va crier, pourquoi c'est lui qui est contre, Et donc, en fait, le règlement n'est pas adapté pour une situation comme celle-là. Et donc, c'est là où les présidents de séance ont un rôle important à jouer pour laisser dérouler le débat et ne pas donner le sentiment d'être touché.
Ça va être passionnant à vivre. On voit que ça va être très compliqué. Oui. Mais les institutions, on va les pousser jusqu'à leur maximum.
Jusqu'au bout. Et on va montrer qu'elles ne fonctionnent pas, en fait, tant que ça.
Mais c'est quand même le retour du Parlement dans la vie politique. Enfin, on n'avait pas eu ce genre de discussion ici sur un pour, un contre, le vice-président. On ne parle jamais, ou on en parle dans les grands moments, quand il y a de grands textes ou quand il y a un incident majeur à l'Assemblée, on en parle dans les émissions. Mais on ne pas. Et là, c'est vrai que pendant quelques mois, enfin, ou peut-être quelques années, s'il n'y a pas de dissolution, la vie politique de ce pays va se passer à l'Assemblée. Oui. Et c'est peut-être dans cette situation un peu baroque, c'est peut-être une des choses dont on peut quand même
bien sûr, c'est ce qu'on peut espérer. Mais voilà. Pour voir un peu les tenants, ceux qui sont dans l'hémicycle, le risque, c'est qu'on retombe dans les abus de la vie parlementaire avec le déblocage systématique des oppositions. Et ça,
le blocage
complet. Oui. Donc voilà. Et donc, comme il y aura blocage, je ne suis pas sûr que les gens acceptent. L'idée, c'est effectivement qu'il y ait un Parlement qui joue le jeu, mais où tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que les oppositions ne font pas du blocage systématique, déposent des amendements en nombre suffisant pour pouvoir discuter et dialoguer, et que le dialogue s'instaure. Mais quand vous avez des dizaines de milliers d'amendements, et parfois les mêmes déposés avec une virgule différente.
François Péponi, si on fait de la politique fiction, tout est bloqué. Là, tous les textes sont rejetés, rien ne passe. On se retrouve à la fin de l'été, on n'a rien réussi à faire passer. Qu'est-ce qui se passe?
Macron. Il faut voter le budget parce que sinon les administrations ne fonctionnent plus. Les collectivités locales ne sont plus financées. Donc il faut voter le budget. Il y a le 49-3, il peut le s'en utiliser qu'une fois pour le vote bloqué par session. Et puis après, on est de nouveau bloqué. Après, les institutions proposent la dissolution. C'est-à-dire que le président dit « je ne peux plus fonctionner », la majorité ne peut pas fonctionner et les institutions ne fonctionnent plus, donc je dissous. Bon.
Je dissous, mais avec quel résultat, quoi?
Avec quel résultat?
Et le résultat, si les Français redonnent encore une majorité relative où ça ne fonctionne pas, là, c'est une situation que nous n'avons jamais connue. Et donc, on ne peut plus dissoudre pendant un an. Et donc, pendant un an, il faut essayer d'avancer comme on peut en votant les textes.
Après, oui, toutes les hypothèses
sont... C'est-à-dire que globalement, il y aura très peu de textes qui seront votés. Et donc, il y aura
dans
quasiment plus de lois.
D'être réformé.
Il n'y aura pas de loi. Bon. Ou des lois consensuelles. On prend l'exemple de l'avortement, ça peut être des lois comme celle-là, mais où les gens sont d'accord pour dire des lois société, où on dit OK, on peut trouver un accord global. Mais c'est-à-dire que ce sont négociations, amendement par amendement, article par article, texte par texte, et ça prend des mois et des mois. Donc en fait, le système marchera au ralenti.
Donc c'est la catastrophe, on va se le dire.
Le PIN, ce n'est pas réformable, mais on fonctionnera comme ça pendant 5 ans.
Aminel Katmi, sombre perspective, parce que on a tellement de réformes à mener à bien dans les prochaines années, réindustrialisation, défis climatiques, la santé, tout est à réformer, l'éducation nationale, ça laisse songeur.
Ainsi on a décidé le peuple français, c'est le seul souverain.
En fait, il dit au président, on veut pas de vos réformes telles qu'on les a proposées, on les veut différentes. Donc débrouillez-vous et trouvez une solution. Et alors, avec des gens raisonnables, on peut trouver des solutions. Avec des gens qui ont envie de faire avancer le pays, avec des gens qui veulent faire tomber l'autre et empêcher l'autre d'avancer.
C'est vraiment
compliqué.
L'intérêt de la France insoumise de jouer le chaos ou pas? Vraiment, ou pas?
Oui, enfin pour moi, pour les connaître un peu,
ils ne vont pas montrer
qu'ils
sont un parti de gouvernement à un moment quand même.
Non, ça ne les intéresse pas. Enfin, pour moi, ça ne les intéresse pas. Parce que sinon, eux, ils veulent faire tomber le système, la 6e République, ils veulent autre chose, quoi. Donc, ils n'ont pas envie de participer
à
ce système-là.
Ils vont pousser au max. Amiel Katmi, vous pensez aussi que c'est l'enjeu pour ceux qui travaillent avec Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas à l'Assemblée directement?
Oui. Enfin, on a bien compris que leur enjeu, c'était pas de montrer qu'ils étaient capables de gouverner le pays. Leur enjeu, effectivement, c'est de renverser la table, d'aller à l'intérieur des institutions pour les faire exploser de l'intérieur. Sauf que c'est une stratégie qui peut pas rassembler une majorité de Français. Enfin, moi, je vois pas demain, même s'il y a je sais pas, on est dans la politique fiction depuis quelques jours, donc on va continuer. Une démission d'Emmanuel Macron dans 2 ans, dans 3 ans, parce que blocage, parce que situation inédite. Je vois pas sur ce profil-là, où même Marine Le Pen est désormais perçue comme plus rassurante que Jean-Luc Mélenchon.
Ils sont en train de la notabiliser.
Et vous avez quelqu'un qui se comporte de manière complètement trublionne, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
C'est mignon.
On va inventer des mots.
C'est mignon. Je ne suis pas sûre que ce soit un verbe, mais
comme un trublion.
Voilà,
je ne suis pas sûre que ce soit même de rassurer les Français.
Alexandre Chevaux, le dernier mot.
Non, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, au Rassemblement National, effectivement, Marine Le Pen, ils sont vraiment dans une entreprise de normalisation. La dernière étape, fini le Front républicain. S'ils obtiennent un poste de vice-président, la présidence de la Commission des finances, 90 députés, on a vu à leur arrivée à l'Assemblée qu'ils avaient mis tous des costumes cravates, des tailleurs pour les femmes. Ils sont vraiment dans une logique de montrer, ça fait des années qu'on voulait le pouvoir, qu'on voulait entrer à l'Assemblée. On y est, maintenant on va être sérieux, on va bosser, on va proposer des amendements,
ils vont
on va
travailler.
Voter les lois qui vont aller dans le bon sens.
Et ils vont travailler, ce qu'on leur a beaucoup reproché sur la mandature précédente.
C'est le projet qu'ils présentent en on comme en off, mais ils sont, contrairement à la France insoumise et à la NUP en général, dans une logique vraiment de s'inscrire dans un parti de gouvernement, je mets des guillemets bien évidemment.
Ils veulent se rester.
90 députés, c'est un groupe, c'est des moyens pour le groupe, c'est 2-3 assistants parlementaires par député, donc ce sont des centaines de personnes qui vont travailler pour eux, préparer des amendements, être présents. Enfin, c'est une machine de guerre. Hein.
Surtout, ils seront comptables d'un bilan dans 5 ans.
Oui, mais c'est une machine de guerre.
Si tout cela tient 5 ans. Merci Amine El Khatmi, Alexandre Chevaux, François Pipponi. Bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos et Mouloud Achour, Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.